Eh bien, bonjour, bon matin et merci de venir nous rejoindre simplement dimanche. Ben oui, je suis là. Soyez pas surpris. Non, non, c'est juste pour vous gag. Juste pour faire un gag. Patrick Aubry sera pas là, je pense, ce matin, parce qu'il a travaillé toute la nuit sur mon montage. Ben, j'ai fait à peu près la même chose, mais je vais vous raconter ça sur Paul Trenon. Claude, ben il était là avec moi, je sais pas ce qu'il a fait. Il a tout débranché, je sais pas. Il est après me montrer quelque chose, puis il a tout éteint. Et Monsieur Christian Derry va être avec nous tantôt. Il est parti faire un truc personnel, mais il va être là vers 11h30, comme à ses habitudes. Ne vous inquiétez point. Merci à tout le monde d'être là. Merci à Jesse, Marie-Lise, et André, Gaétan, et toute la gang. On prend le temps d'attendre nos fidèles, parce qu'ils reçoivent l'annonce, puis après ça, ça réagit, c'est toujours ma femme. Et on a eu beaucoup de plaisir, bien entendu. Non, non, Claude, parle pas pendant que ta caméra est éteinte, ce sera pas long. J'arrive. Je vous rappellerai comme ça qu'on est le 21 avril, c'est pas un gag. Et faites attention, mesdames et messieurs, on nous a annoncé des gros changements. Je vais vous expliquer ça tantôt avec Claude. Claude, comment il va? Oups! T'es muette sur l'écran. Regarde l'écran, le piton muet, désactivé.
Ça a passé ce matin. Voilà. Je me suis déconnecté. Bon, en
essayant. Non, mais t'es mieux que d'habitude. tu te réadaptes facilement.
Ben, à force de faire des erreurs, on apprend. Comme tu... Il y en a qui disent qu'on apprend par la négative, je ne sais pas, là, mais en tout cas.
Voilà.
On apprend par
erreurs. Ben, de notre façon, regarde, c'est toujours de notre faute d'apprendre, parce qu'il semblerait qu'on est toute une bande de nounous. Hein.
Quelque part, ça
fait. Cette semaine-là, on nous a montré qu'on était vraiment une bande d'imbéciles finis. Je suis obligé de dire ça. Je suis obligé de dire le mot fini ici. Je m'en excuse beaucoup.
J'ai entendu celle-là.
Ouais, parce que c'est rendu que on est rendu que après une hausse d'essence de 20 cents jour au lendemain. Ça faisait quelques jours d'ailleurs qu'ils niaisaient avec ça. Là. Ils nous présentaient puis là, au moins j'ai une explication potentiellement douteuse, mais une explication, c'est mieux que rien. On a trouvé maintenant pourquoi qu'on a une augmentation de 20 cents. C'est parce que, mesdames et messieurs, attachez vos tucs, c'est parce qu'il y a de l'essence d'été, puis il y a de l'essence d'hiver. On vient d'apprendre ça. Ça fait combien d'années que je conduis, moi, là? Ça va faire au moins 50 ans que je conduis. Et j'ai jamais vu ça. Je sais pas si c'est une nouveauté, mesdames et messieurs. L'essence doit être meilleure que d'habitude. L'essence d'été puis de l'essence d'hiver. Wow! Je sais pas c'est qui le ça doit être un autre de ces petits jeunes-là en communication qui a appris quelque part, hein, dans ses cours de communication, comment faire pour fourrer le monde. Comment faire pour... c'est fourrer le monde, je suis obligé de dire ça de même. Puis il faut inventer des nouveaux termes maintenant. Des nouveaux termes comme l'essence d'été, l'essence d'hiver... l'essence de je sais pas trop quand. Mais ça explique au moins, Claude, un truc que j'avais découvert depuis quelques semaines, et c'est à Montréal, sur l'île de Montréal, parce que le gars de porte-parole s'est fait poser la question. Une chance que des fois il y a des journalistes qui sont plus réveillés que d'autres. On lui a posé la question. Mais là, le 20 cents, c'est l'essence d'été et d'hiver. Mais depuis quelques semaines, vous vous amusez à augmenter le prix de l'essence de 10 à 12 cents à partir de 21 heures, puis vous baissez le prix de l'essence vers à peu près 7 heures le matin, le lendemain. Ils ont fait ça, là, ça fait des semaines qu'ils font ça. Ben au moins, on le sait maintenant, c'est à cause que, en plus de l'essence d'été puis d'hiver, mon ami Claude, on a de l'essence de jour et de soir.
C'est quoi ces folies-là? Ben regarde, il y a Marie-Lise Dessert, je pense. Elle dit, n'oubliez pas d'enlever l'air de vos pneus d'hiver pour mettre de l'air d'été. Ça va devenir aussi ridicule que ça.
T'en plais ça. Vous avez tout... J'avais tout résumé.
Mais écoute, c'est vrai que tu dis ça, j'avais jamais fait attention à ça. Ça fait moi aussi, cette année, 50 ans que je conduis. Ma première voiture en 1974, tu sais. Petite Datsun 1200cc fastback, là, tu sais. Ça faisait quasiment 50 000 au galon, puis c'était des petites bombes, ces autos-là, c'est pas croyable. Le seul défaut que ça avait, c'est que ça rouillait plus vite que tu pouvais les patcher. Tu sais,
c'est une autre histoire, ça.
Il y avait des suspensions McPherson là-dedans, hein, à l'avant, puis les fausselles se déchiraient. Cette auto-là est passée par toutes les réparations possibles, mais j'ai eu du fun avec, c'est pas croyable. C'était vraiment des petites bombes, c'était très efficace. Mais écoute, ça n'a pas d'allure des affaires de même, là. C'est quand même incroyable. Comment est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose d'aussi niaiseux? Mais j'ai fait le plein cette semaine, justement. Hey, ça m'a coûté 99$. Tabarouette, mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Ça m'en coûtait pas plus que 80 depuis un bout de temps. 20$ de plus pour le même plein. C'est scandaleux, c'est effrayant, écoute, je pense que combien est-ce qui s'est rendu, là, les taxes, c'est près de 50, 60 cents, là.
Non, c'est pas les taxes qui ont l'augmentation actuellement. Il y a certains journalistes de la CA, mais en fait, c'est pas les journalistes, c'est les gens qui surveillent les prix, la CA, ont admis que cette fois-ci, c'est pas les taxes, pas en tout.
Ah bon?
Okay. C'est carrément la marge bénéficiaire des détaillants qui a changé.
Ouais. Parce que moi, on a fait nos impôts, là, puis moi, ben, je peux déduire l'essence à cause de mon métier, puis on a vu que il y a 42 cents, il y avait 42 cents de taxes sur l'essence.
Oui, c'est rendu 55 cents maintenant, à cause du pourcentage, là.
C'est pas comme, moi, ce que je comprends pas, c'est que le gouvernement mette pas les compagnies d'essence, ceux qui font l'essence, là, les compagnies. Parce qu'ils font des profits. Chaque année, ils font des profits records. Y a-tu une petite limite au profit? Il n'y a pas moyen d'avoir une justice sociale quelque part, quelque chose de raisonnable. Mais tu vois, c'est toujours la même chose, hein?
Si on parlerait juste de ça, ça ferait de nos politiciens des gens pas raisonnables, excusez-moi. Ça ferait de nos politiciens des personnes intelligentes. Puis c'est une chose qui est bien dure à trouver de temps en temps. Un politicien honnête et qui sate sa tête, c'est rare.
Ben, ça, je pense c'est... que tu... Oui, ces politiciens-là, d'ailleurs, ils font comme mon frère, ils démissionnent.
Ouais, ils comprennent vite qu'est-ce que c'est que ces problèmes-là, puis ils sacent leur camp au pis sec. Ouais. Ouais. Donc, non, je pense pas que ton raisonnement est excellent. Il y a juste que tu fais une erreur sur l'individu. C'est juste ça ton problème actuellement. Là.
Ah bon?
Il faut vraiment que tes politiciens sortent de la politique pour être capable d'être en mesure de dire ce qu'ils ont à dire, parce que il y en a pas beaucoup actuellement qui font ce que j'appelle de l'auto, pas de l'autocensure, non, c'est pas bien dit, c'est une analyse constructive de ce que la société puis les décisions qu'ils prennent ou ce qu'ils disent autour d'eux autres devraient faire. Parce que ça n'a pas de sens, là, des fois. Là,
écoute, eux autres, ils mettent en application le comment est-ce qu'on dit ça? Ce que le Christ disait, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite.
Oui,
afin que ton monde se fasse en secret, tu sais, afin que ton profit se fasse en secret, au lieu de dire afin que ton monde, tu sais, se fasse en secret. Les autres, non, c'est pour que ton profit se fasse en secret.
Oui, parce que surtout qu'ils font partie de cette génération-là qui reçoivent leurs ordres de Power Corporation, mais maintenant Power Corporation n'a même plus besoin ces gros-là de faire des profits, donner des ordres pour faire des profits, parce que le monde se sont auto-programmés, j'espère que je le dis bien comme il faut pour que ça soit clair, ils sont auto-programmés que maintenant, à chaque fois que des occasions de voler son prochain, je vais dire ça de même, ben, ils se gênent pas. Ils le font sans même qu'on reçoive d'ordre.
Ah oui.
Puis, comme exemple, c'est un bon exemple, ça, celle-là, c'est l'histoire de l'essence.
D'ailleurs, le diesel est encore plus cher, hein?
Non, il est au même prix actuellement. En tout cas, moi, au coin de la rue, ici, il est au même prix. Diesel ou essence ordinaire, c'est le même prix.
Imagine-toi ceux qui ont des gros, tu sais, des 55 pieds, là. Ça doit être effrayant, le prix que ça leur coûte, monsieur.
Ouh là là. Mais non, mais moi je suis content, au moins, ça, il n'y aura pas de différence. Ils vont tous être le même prix, là.
En tout cas.
Il faut le voir. Il faut trouver un côté positif quelque part, Claude.
Ben oui, c'est très. Oui, c'est vrai, tout le monde se fait fourrer égal.
Sauf qu'ils pourront pas nous lancer les bannières de bouffe. Ils pourront pas venir nous lancer la phrase « Ah, ben c'est à cause de l'essence d'été puis d'hiver là, que ça coûte plus cher, la bouffe. » Ben non, parce qu'ils n'ont pas monté le prix du diesel. Ils pourront pas venir nous garager ça.
Ben oui,
tout est livré au diesel avec des 45 pieds.
Justice pour tous.
Voyons voir. Table de multiplication des taxes, l'outil des comptables, bien sûr. Puis, savez-vous qu'une taxe sur une taxe, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une taxe, une multiplication améliorée. Hein? On appelle ça au carré. Tourisme en région sera affecté cet été à cause du prix de la maison. Hein?
Oh ben oui,
le tourisme a déjà un impact depuis qu'il est à une pièce. Oui, ça c'est vrai. Ils vont tous dire que c'est normal, on n'a pas le choix. C'est ça. Ils disent toujours ça, ces niaiseries-là. On n'a pas le choix.
Pendant des années, là, je me souviens, là, à Arcan le matin, là, quand ouais. Ils interrogeaient les responsables, c'était aux mêmes disquettes.
Oui.
T'es jamais capable d'avoir une réponse intelligente de la part de ces gens-là. Tout ce que tu sais, c'est qu'ils font du profit comme jamais ils en ont fait. C'est rien que ça tout le temps. Et je me rappelle, moi, quand on a commencé à conduire, il y a 50 ans, là, et que le prix de l'essence s'est mis à monter tout d'un coup parce que l'Arabie Saoudite, ça, avait décidé que, bon, ils nationalisaient puis que les Américains dehors, puis c'est nous autres, c'est n'approprié. Puis les prix se sont mis à grimper de 5 cents, 10 cents, 15 cents. On trouve ça épouvantable, ça a-t-il de l'allure. Achète-toi ce que c'est rendu aujourd'hui. Tu sais, quand tu avais des grosses barges là, de 15 pieds de long, là, avec des gros 8, là, et que l'essence coûtait 50 cents le gallon, c'était bien le fun. Mais t'imagines aujourd'hui des bétails comme ça, ça n'a pas de sens.
Je me souviens d'une de mes voitures où est-ce que tu pesais sur le... Des fois, je suis gêné de dire ça. J'embarquais sur l'autoroute, sur la 640, puis tu écrasais le truc, là. Puis tu voyais le compteur d'essence faire ça de même.
Ah oui, ben d'ailleurs, c'est drôle. Mon frère le plus vieux chez nous, il s'est acheté, c'était un des rêves de sa vie. Là. Il a toujours voulu avoir une Mustang, mais tu sais, espèce de modèle de fou, là, qui est avec des moteurs super boostés. Ça fait un tapage d'enfer. Et puis, j'ai dit, donc, tu dois entendre les une pièce tomber dans le chemin à mesure que tu conduis. Écoute, ça n'a pas d'allure, ça fait pas de millage, que ça fait rien au gallon, ça, au litre, c'est effrayant. Mais c'est ça. Mais il y a encore des gens qui aiment ça, tu sais. Ils ont les moyens de se payer ça. Mais...
J'avais eu une proposition accidentelle pour ce genre de modèle-là. Puis j'ai pas été capable de résister de dire non à ce prix-là. J'ai acheté la voiture. Puis c'était vraiment ce que tu as décrit, le bateau, là. C'était une voiture qui a 12 pieds de long quasiment, là, puis 6 pieds de large. Quand tu embarques sa route, là, tu te promènes de même, là.
Comme ça, là. Mais tu sais, c'est comme, moi, j'ai eu un Ford Country Squire, là. Tu te souviens?
C'est simple ça.
On pouvait mettre des 8 par 4 en arrière. Nous autres, on avait un clavecin parce qu'on donnait des concerts à ma femme puis moi. On rentrait le clavecin, mais le clavecin mesurait ses pieds. Descendait les sièges, rentrait le clavecin. Tu sais, c'était formidable. Puis j'ai eu une Mustang, je dois dire, là. J'ai eu une pendant 7 ans, j'ai adoré ça et je m'ennuie de ça. Mais j'en racheterai pas parce que ça coûte bien trop cher faire rouler ça. Faut être de l'argent.
Mais je suis content de t'apprendre, Claude, que j'ai vu sur la route il y a 2 semaines une Mustang électrique.
Oui, ben oui. Oui, oui, c'est une nouveauté, ça. Puis t'as vu aussi, hein, je pense que maintenant, ils sont rendus. Je me souviens pas quelle compagnie, là, mais les voitures électriques, il y a des voitures qui font 1200 km par recharge. Oui. Ça commence à être intéressant, là, tu sais. C'est toujours le problème des batteries, parce que c'est bien beau de dire ça, mais ce que ça coûte produire une batterie pour une voiture électrique, c'est complètement démentiel.
Mais là, c'est cool, parce que, regarde, la technologie qui se déploie, on pourra pas, mais là, tout le monde me dit que ça fait trop longtemps de ça, là, mais le temps que le moment entre que le moteur soit performant, je parle sur essence, là, OK? Puis maintenant, ça a pris quelques années, même si je sais en tant que d'ingénieur que j'ai vu les moteurs plus performants que ça il y a bien longtemps. Mais ils ont pour des raisons encore de bouffer le petit en bas de l'échelle, c'est ça. Ils font en sorte qu'ils ne sortent pas les affaires. C'est pareil comme ça me fait penser à une autre affaire. Je parlais avec un ingénieur sur justement les systèmes de propulsion pour les voitures. Puis il montrait, on était après développer un bidule. Là, je parlerai pas plus de ce côté-là. Je veux parler sur ce qu'il me dit sur les batteries. Puis il m'expliquait que la batterie qu'ils avaient, puis je me souviens très bien de ça, il y a 30 ans, c'est pas plus. J'avais une petite batterie dans mes mains qui s'appelait une 18480. C'est ce qu'on voit actuellement dans les voitures Tesla. Qu'on prétend, qu'on dit que c'est la batterie la meilleure et oui. la plus performante. OK? Mais
ouais, celle qui prend pas en feu.
Ouais. Ben ça, c'était un autre problème parce que les premières batteries étaient comme ça. Mais, dans cette fonction-là, cette petite batterie-là, moi, je l'avais entre les mains il y a 30 ans, 35 ans presque.
Ah ouais?
Puis on faisait des projets avec cette batterie-là, mais chaque batterie coûtait 500 piastres.
C'est quand même de l'argent, il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, voilà. Je pense que c'est 30% du prix de l'auto, c'est la batterie.
Exact. On est toujours sur ce prix de l'auto, ce 10% de le 50% du prix de l'auto, parce que c'est le moteur, même dans une voiture, là, comme dans quelle voiture on a sa route, là, qui a un moteur dedans, là, ton moteur occupe à peu près ça, 50%.
C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais ça, bah, tu regardes, on parlait il y a quelques semaines hein, de cette.
Oui, mais je travaille dans l'ingénierie, monsieur.
Cette compagnie ici au Québec, là, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont exactement, qui travaille sur la fusion, hein, la fusion nucléaire, puis qui s'attendent à sortir une batterie avant longtemps qui fonctionnerait à partir du principe de la fusion. Et c'est l'avantage de ça, c'est une batterie qui va durer quasiment indéfiniment. Et puis, qui est sans danger, sans radiation, sans quoi que ce soit. Ça va finir par être ça, de toute façon. On n'arrête pas le progrès dans ce domaine-là. Et je lisais encore un article cette semaine de quelqu'un, justement, je sais pas qui, là, qui s'est procuré, qui est allé pour une voiture électrique, puis il dit, c'est incroyable de conduire une voiture électrique. Parce que l'efficacité est ultra. Tu veux accélérer, ça prend quelques secondes. C'est efficace, incroyablement. Et t'es débalancé au début parce que c'est tellement performant que t'as pas l'habitude de ça. C'est vraiment une conception différente de la conduite automobile. Il faudrait bien que j'aille essayer ça à un moment donné. Essayer une Tesla pour le fun, voir ce que ça donne. Mais pour l'heure, je préfère rester avec ma minoune.
Oui, Gaétan, non, j'ai rien dans mes mains. Je porte aucune bague, que ce soit pour me marier ou me fiancer, j'ai aucune bague. Je ne veux pas de bagues. Je n'aime pas ces affaires-là. Je me suis cassé un doigt à cause des bagues. Je mets jamais rien dans mes mains. Donc, même chose sur une montre. Hein, j'ai pas de montre. Voilà. Et oui, je vis en ville. Je vis en ville, je vis en campagne. Je vis autour de l'île de Montréal et je suis bien content. Ouais, c'est ça. Et de 25 à 30 de l'énergie, c'est de l'essence. Ben oui, c'est ça, Jesse. C'est à peu près ça. Le pétrole tient une grosse place dans notre milieu de production et de création d'objets, que ça soit un boîtier, que ça soit le pétrole est un élément actif qui est utilisé à tous les sauces parce que son élasticité, ce que tu peux en faire, que ce soit un bol, t'as du pétrole là-dedans, dans tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eux autres jouent avec le prix du yo-yo du pétrole, mais quand tu demandes aux producteurs de pétrole, je parle des vrais, là. Je parle pas des ceux qui prétendent être des producteurs de pétrole, te disent, ben non, on n'a pas touché avec le prix du pétrole.
Hey, en fait, as-tu, je sais pas il doit y avoir une statistique là-dessus. Prends par exemple, prends les pintes de lait en verre, oui, ou les récipients, les bouteilles en verre. Quelle est la différence entre de prix produire une bouteille en plastique puis produire une bouteille en verre?
L'énergie que ça te prend pour faire fondre le verre.
Pour le verre.
Le faire devenir du verre.
Oui, mais par ailleurs, elle est recyclable à l'infini, puis elle est réutilisable.
Voilà.
C'est là où les bouteilles de bière, c'est le meilleur exemple.
Oui, sauf qu'ils perdent si tu remarques, les bouteilles de bière, ils ont une couleur, c'est pas pour rien. Parce que, à un moment donné, t'es plus capable de la mettre blanche.
Ah, ok. C'est ça qui a fait que, ok. Il y a les canettes c'est sûr que les canettes d'aluminium, ça, c'est pas, c'est recyclable aussi, là, quasiment indéfiniment, là. Il y a pas, je serais curieux, dans tout cas, de voir, j'aimerais ça voir les coûts que ça engendre à long terme. Parce que t'as beau dire une bouteille en verre que tu récupères, que tu nettoies, puis que tu sais, les pintes de lait autrefois, j'ai jamais vu une pinte de lait brun, moi, quand j'étais jeune. C'est tout devenu en carton, ciré, puis bon, peut-être que c'est une question de manutention, probablement, puis récupération, déplacement, etc. Ouais, c'est...
Puis il y a plus de livreurs de lait sur la rue,
Ben oui, nous autres, ils ont fait... À l'époque, je me souviens, à Trois-Rivières, nous autres, le monsieur Dugré.
On avait ça en ville.
Bon, il faisait sa tournée tous les matins, puis on mettait il y avait des petites boîtes en aluminium avec l'intérieur isolé, là, puis il mettait les pintes de lait là-dedans. On mettait les pintes utilisées la veille, puis le laitier passait le matin tôt, puis il prenait ses bouteilles, puis il mettait les bouteilles neuves. Ah, que c'est drôle. Quelle époque.
Ah là là. En tout cas, si les Russes nous regarderaient, ils iraient bien nous autres sur le prix de l'essence. Le monde, il y a du monde qui croit à ça en plus. C'est ça qui me frustre le plus des fois. Il faut pas croire à tout ce que vous entendez et que vous voyez des fois. N'oubliez pas ça, ce petit détail-là. Attends, bougez pas, j'en ai un autre, Claude. Bouge pas, j'en ai un autre. Où est-ce que tu l'as mis? Parce que Claude a été très, très, vu que j'étais pas là la semaine passée, qui démontre, celle-là, j'ai vérifié plusieurs des prix, c'est vrai, puis il y en a d'autres qui sont pas vrais.
OK.
C'est celle-là que tu nous as envoyée la semaine passée, qui est le prix en Russie, puis le prix à United Kingdom, Nouvelle-Angleterre. Non, ça c'est en Angleterre. Le prix de en haut, c'est le prix de la nourriture qui a fait une augmentation de 10%. Et c'est au Canada, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas vu ce tableau-là, je l'avais vu il y a au moins un mois, c'est 28%. Les patates, juste un aliment comme ça, les patates, eux autres, ils ont eu une augmentation de 18%. Nous autres au Canada, on a eu une augmentation de 18%. Ça, au moins, c'est équivalent. Les bananes, 12% là-bas. Ah, ici, ça n'a pas bougé. Je ne sais pas pourquoi. Toutes les autres, c'est à peu près les mêmes affaires qu'il y a eu comme augmentation de prix. Puis l'essence en bas, l'énergie en bas, 80%. C'est là où est-ce qu'ils veulent nous faire monter la bande de Zozo canadiens. C'est là qu'ils veulent, parce qu'ils disent, gardez là-bas, là, on ne va pas de faire 80%. Pourquoi on n'a pas le droit de le faire, nous autres sites au Canada, là? Hein? Regarde. Puis là, tu vois, tu regardes en Russie. Par contre, là où est-ce que je suis obligé de dire en Russie, le son a un bon point sur dire qu'il y a eu beaucoup de baisse, mais selon les gens avec qui je parle, moi, qui sont en Russie, actuellement, ils ont une pénurie sur beaucoup de choses. Tu rentres dans un supermarché du style Maxi ici ou Provigo, puis la moitié, non, un tiers, elle me disait, un tiers des tablettes sont régulièrement vides. Parce qu'à seconde qu'il y a quelque chose sur la tablette, les gens rentrent là puis achètent tout vide, ce qui est populaire qu'on appelle, là. C'est comme le fromage. Fromage, c'est pas capable de rester sur ces tablettes là-bas. Ils en reçoivent pas assez. Ou le lait. Ouais, donc Gaétan, moi je m'en fous de ce petit détail-là. Je m'en fous total.
Ah mon Dieu, oui.
Je m'en fous total de celle-là. Parce que je regarde, moi je suis pas là pour faire du fla-fla. Il y en a beaucoup, c'est pour ça. Une autre affaire que tu m'as envoyée la semaine passée que j'avais le goût de jaser, c'est j'ai bien aimé ça, je sais pas si vous en avez parlé, c'était ta cape d'invisibilité que les Chinois ont...
On n'avait pas parlé, justement. Ça, c'est
assez pas parlé.
Non, c'est assez formidable. Il y a une petite vidéo qui accompagne ça.
Oui, je vais essayer de te trouver. Bouge pas. Je l'ai mis quelque part. Juste pour bien expliquer ce que j'allais vous dire sur le sujet. M'en voilà. Non, elle n'est pas là. Je ne sais pas où est-ce qu'il l'a enregistré, la bordel de vidéo, je devrais être normalement quelque part là. Je sais pas où qu'il est mis. Bon, faut exprimer. Dans la vidéo, il faisait une démonstration de où est-ce qu'ils en étaient rendus dans cette fameuse cape d'invisibilité. Et je peux moi vous dire de façon assez nette que c'est pas la première fois que je la vois cette annonce. Okay. C'est pas la première fois, ça. Il y a peut-être 20 ans que je l'ai vu, cette affaire-là. Puis ce qu'ils nous montrent dans leur présentation, tiens, je vais aller chercher carrément le truc de YouTube. Pas de YouTube, mais de Messenger, ça va être bien moins compliqué, celle-là ici. T'as ça de là. Mets ça sur l'écran. Ah oui, t'es capable. Ah oui, le vieux. Arrête de jouer avec tes pitons. Il montre ça à tout le monde. Bon, parfait. On retourne en arrière. Et je vous présente ça. Donc, j'allais dire que cette cape d'invisibilité-là, je suis presque sûr que toutes les gens qui sont actuellement après nous écouter en ont une, puis ils ne le savent même pas. Vous allez comprendre ça dans un instant. Tac, tac, tac. Puis je vais même vous expliquer pourquoi. Voilà. Bon. T'sais, on nous montre ici un truc. Ça, c'est le premier vidéo que j'avais vu. Vous avez vu, le gars, c'était. Comme là en bas, vous regardez, il vous montre. Vous voyez encore ses pieds en arrière. Vous voyez encore un peu ses pieds. Ce qui fait en sorte que c'est pas vraiment nouveau pour moi. Si vous avez des néons à LED ou des lumières à LED, vous avez déjà cette technologie entre vos mains. C'est un déflecteur. Ah. Ce que vous voyez, ce qu'il y a en bas de l'écran, là, devant ses pieds, c'est un déflecteur. Voilà. Si je le tourne de bord, tu fais disparaître l'angle de vue.
Ah, OK.
C'est juste ça que tu fais. Ils font la déflexion de lumière, tout simple que ça. Puis ça, on utilise ça sur beaucoup d'équipements actuellement que vous avez à la maison ou de choses que vous avez à la maison, comme comme les lumières que j'ai devant moi. J'ai des déflecteurs devant. Si je tourne mon déflecteur au bord, la lumière, au lieu de s'en aller vers moi, s'en va à côté de moi. Bon, ben, si tu mets ça devant toi, tu vas voir, je vois ce qui est derrière moi. Ils l'ont juste fait de meilleure qualité comme déflecteur, mais il n'y a rien de...
Okay.
Technologiquement parlant, c'est une affaire que ça fait longtemps que ça existe.
Moi, quand je vois ces choses comme ça, je t'envoie ça parce que je veux savoir ce que c'est. Puis je me suis dit, je suis certain qu'il doit savoir ce que c'est parce que je me méfiais. On se méfie de ces choses-là parce que c'est trop facile, là, de te montrer une image pendant 30 secondes, puis après ça, tu devrais prendre ça pour du cash, tu sais, prendre ça pour acquis. Ben, j'ai dit, Jean-Marc est ingénieur, il a une sorte de patente, il doit savoir ce que c'est. Ben, tu vois, je suis pas surpris que tu aies une réponse à nous donner.
Voilà. La Jessie dit les tablettes sont toujours pleines dans nos épiceries, créent énormément de gaspillage. Un gérant de métro qui me raconte ça. Ouais, ben nous, bon, je dirais pas oui puis non. Je vais dire que pour avoir travaillé avec la société Saint-Vincent-de-Paul, nous autres étaient contents.
Mais ça, écoute, quand tu vas dans les très gros, là, tu sais, là, genre Maxi, oui. Pis ça, là, nous autres, on a ça, c'est pas loin, là.
Oui.
Écoute, dans l'allée principale, d'un côté, t'as les allées latérales, là, puis t'as les allées, puis t'as tous les réfrigérateurs, puis d'un côté. Dans le milieu, t'as des îlots. C'est des îlots, là, c'est des pointes de stock pas vendues à une pièce et quelques. C'est des centaines et des centaines de boîtes de nouilles, de toutes sortes d'affaires. Ça, c'est du surplus qui se débarrasse parce que ça s'est pas vendu. Il y en a trop. Et oui. Puis, ça attire le monde parce qu'ils disent, ils vont venir ici, ils ont l'impression qu'ils achètent ça. Mais c'est pas nécessairement des choses de qualité.
Mais non.
Et qui sont vraiment bonnes pour la santé. Ça fait que tu te dis, tu te fais attraper par ça puis t'es pas plus avancé. Parce que ce qui est de qualité coûte cher. Tout ce qui est de qualité coûte cher. La bonne viande, ça coûte cher. Des bons produits, c'est dispendieux. Et c'est vrai que la nourriture coûte extrêmement cher. Écoute, c'est rendu que ça pue bon sens.
Tout ce que j'expliquais justement hier soir sur la rue, l'essence, le monde, ils sont tous d'accord sur le principe de dire que oui, le pétrole est une raison, il coûte très cher, blablabla, mais influence tellement nos sociétés qu'on est rendu, le monde comprend pas, après ça coûte cher l'épicerie, ça coûte cher telle affaire, mais oui, il faut que, je vais juste regarder un exemple, là. Bon, on parle ici de gaspillage, hein, les tablettes de métro qui sont toujours pleines, ou de Maxi sont toujours pleines, une chance les banques alimentaires reçoivent, comme je disais, aussi, mais dedans, les éléments qu'il faut prendre en compte aussi, c'est, lorsque tu fais venir un objet, je vais dire un objet ou des aliments, c'est la même affaire. Il faut que tu le fasses venir du point A au point B. Il faut que cette distance-là soit le plus court possible. Mais, grâce à nos gentils politiciens bien intentionnés de nos sociétés, ces distances-là n'ont pas été protégées. Donc, ça fait en sorte que ça s'en vient de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus loin de là où est-ce que sont les milieux de vie. Donc, faut que tu transportes ces maudits aliments-là vers les milieux de vie. Tu peux pas faire venir, par exemple, demain matin, je veux m'acheter, je vais donner un exemple, vous allez me dire que vous êtes capable de le faire, là, mais je veux me faire venir une pizza. Comment ça coûte vraiment faire une pizza? Ah ben si j'ai tous les aliments, là, puis je dis que tous les aliments qui sont devant moi, là, sont payés, ils me coûtent 0 cent. Combien ça me coûte faire la pizza? Le prix du four, l'énergie pour faire chauffer.
Ah ben oui.
Donc, tout de suite en partant, faire chauffer une pizza, faut t'allumer ton four pendant, je sais pas, 15 minutes, on part à zéro, là. Pendant 15 minutes pour le réchauffer, ton mot à 10 four, ça vient de te coûter à peu près 7 $ d'électricité.
Oui, mais ça, c'est comme, tu sais, là, les rois de la patate, là, sur le bord des routes. Oui. Tu sais, la marge de profit sur un hot dog, c'est hallucinant. Hallucinant. Oui. Ça coûte quoi faire un hot dog? Ça coûte rien. C'est complètement dérisoire par rapport au prix que tu payes. Et, je me souviens quand je travaillais à l'Expo, quand j'étais étudiant, dans les années 70, on placotait avec les gars qui avaient des kiosques là-dedans. Oui, parce qu'il y avait des kiosques que tu faisais un commerce là, de bouffe, là, tu sais, d'affaires de genre, des hamburgers, oui. Des hot dogs, des frites. Puis il y avait un gars à l'époque, on parle des années 74, là, 70, ça se passe beau, là, on a travaillé plusieurs années l'été, là, en sécurité. Puis on placotait avec ces gars-là qui avaient ces commerces-là, puis tu payes, hein, aux unes autres, ici, on fait 50 000 piastres dans l'été.
Oui.
Ça, c'était en 70.
Oui.
Il faisait 50 000 piastres dans son été à vendre des hot dogs puis des frites.
Oui, puis oublie pas les enveloppes brunes qu'il fallait qu'ils payent les électriciens puis les plombiers pour avoir le être branché le plus vite possible.
C'est pas croyable. C'est pas croyable. Mais ça, on a parlé de ce gaspillage-là, là, dans des sites comme ça, c'est effrayant. Chaque année, quand ils refaisaient les thématiques, par exemple, ou des pavillons comme. J'ai le souvenir du pavillon de l'Iran, deux étés de suite, hallucinant. Parce que c'était un pavillon qui était complètement sur deux étages, mais c'était complètement vide. C'était comme un îlot pour y monter. C'était des tapis immenses. Puis c'était des tapis de hausettes. C'est indestructible, ce tapis de hausettes. Surtout quand c'est juste pour 2-3 mois d'été.
Ouais.
Et l'été suivant, là, le pays a dit, nous, on revient pas si cette année, le tapis est pas bleu. Parce que l'été d'avant, il était jaune. Puis les gars nous disaient, on scrape ça, il y a un container dehors, puis on en met des neufs. Puis on paye. Et quand ils refaisaient certains intérieurs de pavillons thématiques avec les divisions, ils prenaient toute la division, ils scrapaient tout, prise de courant, filage et tout. Il n'y avait rien de ça qui avait servi. Mais en construction, tu es obligé d'avoir une prise de courant en tant que pied. C'est inouï. C'est inouï. Puis le gars, il dit, on n'a pas le droit, là. Ils se sont fait pogner, là, à récupérer ça. Il dit, on perd notre emploi, on perd notre job. S'il y en a qui le font en secret. Mais c'est terrible, le gaspillage. On a compris ce qu'était le gaspillage à cette époque-là. On était vraiment impressionnés. C'est quelque chose de pas croyable. Ça n'a pas changé, ça.
Pas changé, mais moi, j'allais ramasser les conteneurs, justement, les prises électriques puis les fils électriques. On mettait tout ça dans un camion, puis on envoyait ça faire de la construction des maisons dans le Nord.
C'était neuf, là, ces équipements-là.
Ah ouais. On a ramassé des murs complets qui n'étaient même pas percés, même pas punchés, rien. Juste au complet, le 8 par 4, ramasse ça, mets ça en camion, envoie ça dans le Nord, construit une maison.
Ça me rappelle, moi, quand j'étais étudiant, quand pendant la construction du stade olympique, le responsable du Parti libéral pour le filmer pour les reportages. Puis lui, il allait en hélicoptère au-dessus du stade. Puis tu vois un camion de ciment sortir, rentrer par une porte, puis sortir par l'autre. Ça s'en va dans le Butcher Brook, à campagne. Les gars se construisent des chalets. Puis c'est vrai, ça a été démontré. Il y a des millions qui ont été perdus comme ça par des gars qui se sont construits des maisons, construits des sous-bassements. C'est incroyable. Et personne ne dit rien.
Tu viens de dire une fausseté. Ça n'a pas été perdu.
Non, c'est vrai. Récupéré.
Recyclé.
Oui, il y en avait trop. Il y en avait trop. Qu'est-ce que tu veux?
C'est ça. Faut le voir. Faut le voir comme il faut, là. Tu sais,
tu regardes ici, Pauline Kempker, elle nous dit le fast-food a augmenté de 100% depuis 2014.
Oui. Oh, oui, regarde, ça n'a pas arrêté d'augmenter. L'histoire des hot dogs, là, Claude vient de parler d'un point de vue, je vais appeler ça client. Moi, je connais quelqu'un qui a travaillé à l'intérieur, l'autre bord, puis qui racontait ça, dit une saucisse hot dog, c'était 10 cents.
Ah ouais. Ah oui, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que les autres, ils achètent un bulk qui appelle en grosse quantité. Eh bon, t'es divine.
Au moins, c'était récupéré. Moi, c'est ça que je me dis. Mais c'est juste pour faire augmenter le prix. Ouais. Ben ouais, c'est ça, Pauline. T'imagines-tu 100%? Ah, regardez, là, hamburger, vous allez prendre vos vacances en Californie? Préparez-vous la facture. Un hamburger a rendu 20$. Parce qu'il faut payer l'essence d'été puis l'essence d'hiver. Eux autres là-bas, c'est le hamburger d'été puis le hamburger d'hiver.
Je vais te donner un exemple. Ça faisait quoi depuis la COVID? On t'a pas allé au restaurant.
Ouais.
On t'a pas allé déjeuner au restaurant. Ça fait que là, il y a une semaine avec Serge, hey, on va-tu au restaurant matin? On va aller se payer un vrai déjeuner, deux autres tournées bacon avec des saucisses puis tout ce qu'il faut, là, c'est. Hey, ça nous a coûté 23 piastres chacun. As-tu 23 piastres un déjeuner? Écoute, c'est démentiel. Avant la COVID, on payait 5-6 piastres un déjeuner. C'était pas plus cher que ça. Puis ils te mettaient du café tant que t'en voulais. Ils te donnaient carrément un pot de café au même restaurant où à cette heure, ils viennent te le mettre à mesure. Puis c'est effarant le prix de la restauration. On n'y va plus. Ça sert à rien. Absolument rien. pas dire arriver tout propre avec une cravate pour ajouter des lois et des normes, mais bien relever les manches pour se salir les mains.
Tellement bien dit.
Oui, c'est brillant. Mon père disait, si tu as peur de te salir, c'est que tu veux pas, c'est que tu veux pas travailler. Ah là là.
Oui, ouais, tu as parfaitement raison. Moi c'est oui. quand j'entends mon boss me dit, hey, il y a un client qui s'en vient, va te changer. Parce que moi, j'aime ça de travailler en Guinée. Des fois, je le fais, mais à part du temps, je le fais pas. Je dis, pourquoi? Je cite que je travaille. Je suis pas ici pour faire la statue.
Oui. Oui, puis c'est fort parce que quand tu fais venir une pizza, là, le gars, là, t'arrives pour payer, puis il y a 15, 20, 25. Ça, c'est le pourcentage ouais. pour le type. C'est déjà ouais. dans la machine.
Ouais.
Fait que le moins que tu peux lui dire, c'est 15. Puis si tu lui donnes 3 piastres, il te regarde avec un air bête. Tu sais. C'est pas croyable, là. C'est rendu, là.
3 piastres par chez vous, quelle grosseur qu'il y a, tu vas pas chez Starbucks. Starbucks, c'est 7$. Moi, je bois pas de Starbucks, j'aime pas ça de toute façon. Ah là là. Qu'est-ce que notre ami Trudeau nous dit? Je reçois plein de lettres des familles disant que leur frigo est vide. Je réponds quoi là-dessus? Parfait. Dis-leur de le débrancher. Ils vont économiser de l'électricité.
C'est à peu près ça. Ça va pas plus loin que ça. Le problème est réglé. C'est à la Trudeau. Il y en a eu des très bonnes caricatures hein, que je t'ai envoyées.
Je vais juste finir la politique.
Oui, continue.
Je vais continuer sa politique parce que je la trouve bonne celle-là aussi. Parce qu'avec tous les sondages qu'on a vus depuis quelques semaines de notre ami de la CAQ, on sait, ça fait combien de temps que Bernard est rendu ministre de l'éducation?
De l'éducation.
Ou de déséducation on va faire un mandat maximum?
Moi, à peu près,
Moi, c'est ça. Je pense que c'est juste ça. Il se pose vraiment la question si c'était pas une gaffe d'avoir renié le Parti québécois, finalement.
Moi, c'est drôle, hein. À chaque fois que je le vois, là.
Ouais.
Ce gars-là, il est conscient qu'il a fait une erreur. Je suis convaincu de ça. Parce qu'il était excellent au PQ. Il faisait une belle job. Il était efficace. Puis, quel honneur que tu allais s'embarquer dans une histoire comme celle-là. C'est pas croyable. Que veux-tu?
Effectivement. Ça doit être ça, Monsieur Québec. Avec Trudeau, je suis allergique au pollen. JC. Il faut vraiment manger des crudités, ça fait longtemps qu'on essaie de nous faire quoi. Il n'y a rien à dire que ça. En point de vue naturel, on pourrait en parler en France, on pourrait dire que les gars, c'est très bon pour la santé. Ça te permet d'économiser, tu vas avoir moins de gras dans ton alimentation, puis tu vas
Mais c'est drôle cette affaire-là. Rappelle-toi quand le fameux notaire là, qui avait l'insectarium. Et ouais. puis qui dès les premières années, il faisait manger aux gens des insectes. Là. Il montrait que ça pouvait se manger, que c'était possible et que c'était pas mauvais. Mais ça prend, tu sais, c'est comme quand on était jeune puis qu'il nous montrait des Africains qui mangeaient des chenilles, tu sais. Puis tu voyais le noir, là, il y avait un pot, là, il y avait des chenilles, des belles grosses chenilles. Il prenait ça, il mangeait ça. C'était comme manger une frite, littéralement. Alors on était là, on trouvait ça abominable. Et en fait, ça peut être un excellent aliment, c'est ça qui est fou. C'est une question de culture, hein, puis de conditions de vie, là. Mais il me semble de voir ça, tu sais, aller choisir tes chenilles.
Vraiment, celle-là, je l'ai trouvée bonne comme annonce. Je ne sais pas d'où t'as ramassé ça, mais le Canadien de Montréal a terminé sa saison, puis
oui,
qui ont eu l'impression qu'ils étaient à Toronto.
Oui, il y a de plus en plus de gens au Québec puis au Forum qui se plaignent que l'hymne national est en anglais.
Ils ont raison.
C'est complètement inapproprié. Puis, je dis, c'est que à Monique, tu sais, il en chantait un bout en français puis la fin en anglais, là. Mais là, c'est rendu que je fatigue même plus. Je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Il faudrait que les gens, les amateurs de hockey, puis ceux qui ont des passes pour aller au hockey, puis qui ont des billets, faites une plainte ou faites un, comment on appelle ça, une espèce de quand on ramasse des noms, une liste là, de noms, on dit on n'est pas d'accord, on ne viendra plus si vous n'avez pas l'hymne national en français. C'est rendu ridicule, cette histoire-là, complètement, là, tu sais, c'est inacceptable, carrément. On est au Québec, puis la langue de travail est le français. Ces gars-là travaillent au Québec, c'est en français, c'est des limites.
Ben, ouais, effectivement, ça serait, on pourrait utiliser ça comme comme argument, mais vous savez qu'un
pétition. Individu
gagne. On pourrait faire une pétition, effectivement, sauf
absolument.
Que je pense pas que ça ferait grand-chose.
Non, mais au moins ça aurait été fait, ça montrait que il y a des gens sensibles à la langue française, puis au fait que le Québec est une province pour le moment, mais est une nation. Francophones au départ. Les restaurateurs ont été les premiers à accepter les mesures sanitaires. Je me suis fait refuser par eux durant le COVID. Ils n'y sont jamais retournés. Et je n'y suis jamais retourné. Ah ben oui, qu'est-ce que tu veux? S'ils font faillite, je ne les pleurerai pas. Insect burger. Oh, c'est bizarre. J'ai jamais vu ça, par exemple. Je ne sais pas où ce que c'est, là, mais...
Ouais, c'est vrai ça, pour le 15e Montréal, c'était eux autres de chahuté. Mais c'est tous des anglophones maintenant qui vont là, c'est des gens de l'Ontario. Je vais finir sur le 15e de Montréal. Pourquoi les gens n'ont pas chahuté? Parce que maintenant, la majorité des gens qui sont dans le stade là-bas sont des anglophones, je suis obligé de dire, puis les suiveux.
Ah,
ils ont peur, qui ont peur de donner leur réaction. Ou l'autre détail qu'on voit pas à la télévision des fois, parce que j'ai quand même été faire quelques trucs avec la Fédération Équipe Québec là-bas. Tu ne vois pas il y a vraiment du chahutage. Ils ferment les micros à la télévision.
Ah, attends, ça me surprend pas partout.
Contrôler l'image.
Imagine si jamais il y avait une équipe de hockey à Québec, là, tu sais, là. C'est pas être plus francophone que ça comme ville, là.
Oui.
Avec les hymnes en français, en anglais, Colin.
Ouais, mais ils vont dire, je suis obligé de me plier. Il n'y a pas une qui dit que le seul resto que j'encourage encore ne charge pas la taxe lorsqu'on avertit qu'on paye avant de commander. Qui mange de la merde, le gouvernement?
Ben, il cache, OK, ouais, quand tu dis...
Dans
un restaurant, en règle générale, moi, j'y vais plus, ça fait longtemps, mais quand j'y allais, le pourboire, c'était toujours en cash que je le donnais. Je dis, regarde, ce pourboire-là, là, c'est à toi qui appartient, c'est à toi qui revient, tu feras ce que tu veux avec.
Ah, ça fait pas
besoin de payer d'impôts dessus. Il y a des limites.
Donc, on finit les burgers maintenant. J'en ai trouvé bien d'autres là. J'ai juste testé ça puis je suis tombé sur le dos là. Merci de l'information.
Ah, t'as essayé ça?
Non, j'ai jamais goûté à ça.
Ah, ok.
Je veux dire que j'ai regardé de quoi ça avait l'air. Bon, je connais Beyond Meat, hein.
Oui.
C'est pas des mosquitos, saviez-vous que c'est fait de plantes? Ça, je trouve ça pas si mal. Mais c'est tellement couvert de sauce pour faire en sorte que tu goûtes pas ce que tu manges. En fait, t'es mieux de prendre juste la sauce, tes deux tranches de pain, puis manger comme ça, ça va faire la même affaire, là. Sauf que il va manquer quelque chose.
Parce qu'il y a un aspect, je sais qu'on nous avait prévenu à un moment donné, j'avais vu ça, c'était chez AEW, je pense, qui s'utilise du Beyond Meat. Mais ils font pas ça, ils disent pas, ils font pas ça pour de la viande. Il y a un hamburger Beyond Meat, là. Je sais pas ce que ça goûte exactement, je sais pas ce que ça vaut. Ben, ça dit, c'est du végétarien. Hamburgers végétariens, nous autres, on est végétariens, nous autres, à 90%. On ne mange que du poulet puis du poisson. On ne mange pas de viande rouge du tout. Alors, je peux pas faire de comparaison, mais je dois dire que il y a bien des gens, là, quand tu achètes de la qualité dans un hamburger végétarien, ou mets-tu fais une sauce à spaghetti, puis tu mets la viande, là, tu sais, là, Beyond, ben, c'est pas Beyond Meat qui fait ça, là. Puis il y a personne qui le sait. On a fait des pâtés chinois avec ça, personne le sait. Personne se doute que c'est pas de la viande. Tellement ça ressemble. Puis si tu les épices un petit peu plus, là, pour, alors c'est surprenant. Il y a des produits de qualité dans ce domaine-là pour ceux qui sont végétariens ou qui veulent pas manger de viande et qui sont.
Merci, Marie-Lise. C'est tellement ça que je m'en ai rajouté. On peut manger tous des insectes, mais comme il y a certains insectes, c'est pas oui. Tout le monde qui vont être capable de le manger parce que ils ont des, j'appelle ça de la protection, une protection pour certains insectes pour pas que certains types d'animaux se les mangent. Et celui-là, il faut pas y toucher. Touchez pas à tous les insectes qui existent parce qu'ils mettent des escargots. Ils disent souvent ne pas mettre d'escargots pour sauver 12 vies. Du beurre à l'ail avec du fromage et du pain, c'est excellent. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on fait des escargots, on mange ça des fois. Mais ce que j'allais dire, c'est si vous savez pas, puis vous avez jamais regardé la réglementation, je vais vous en apprendre une, puis vous allez peut-être tomber sur le dos. Mais vous savez que quand vous mangez la salade, que vous mangez des hamburgers, vous avez le droit jusqu'à 8% de matière non originale dans le produit?
Ah oui? Ah oui. C'est quoi la matière?
C'est peut-être des insectes.
Ah, la salade, ça se peut pas. Des insectes.
Oui, s'il est mal lavé, ta salade.
Ah là. Oui, OK. Ah ben oui, ça, c'est sûr que oui. Ça,
bon, voilà, bon.
Il faut être prudent. Nous autres, avec France,
sauf que
la salade est faite.
Ouais, mais c'est pour ça que t'as des machines, tu mets la salade dedans puis tu tournes la poignée.
Oui, oui.
Là.
C'est ce qu'on fait, nous autres, automatiquement.
Moi, j'utilise pas ça, là. Moi, je fais ça à la main, je suis cheap. Mais, ben oui, moi, je prends la salade, je mets ça dans l'eau, je chasse ça de l'eau, puis comme ça. Bon.
Nous autres, on la met dans l'eau, on la coupe, puis là, on la met dans la l'essoreuse, on la, puis là, ça
prend trop de temps, j'ai pas le temps.
Oh mon
Dieu. Je suis pas en retraité ou pré-retraité, moi. J'arrive ici, c'est à peine 20 minutes, tabarouette, des fois, de manger. La gang m'appelle déjà au téléphone. Je remarque, on commence le show, blablabla. C'est ça. Il n'y a pas d'humain qui meurt de trop manger de faim. Ouais, effectivement. Je m'excuse, non. Je me souviens d'avoir lu un rapport de gens au sud de l'Afrique qui ont la mauvaise habitude de manger du bambou. Je me souviens, c'est quoi le bidule? Ils en ont tout le temps dans la bouche. Tout le temps après manger. La preuve, même qu'il y en a qui ont plus de dents à cause de ça. Puis il en mange vraiment trop, puis il y en a qui meurent de problèmes avec l'estomac, qui sont enflés parce que ce truc-là, quand il devient avec du liquide, il gonfle. C'est voilà. Champignons gratinés aux échalotes, miam miam miam, maison. Mais j'ai pas envie de mettre d'escargot, moi. Eh hey, là 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 là. Bon, où j'étais rendu, moi, je me suis oublié quel sujet c'était après, je m'en ai lancé. Tu m'as fait partir sur une autre affaire. Tiens, on va demander à Young de nous expliquer ça.
Oui, ça, j'ai beaucoup aimé. Tu vois, ce n'est pas une coïncidence que ceux qui ne réfléchissent pas dans le sens du narratif dominant soient traités comme étant les inaptes de ce monde. Pour maintenir l'ordre et le contrôle, vous devez isoler l'intellectuel, le sage, le philosophe et le savant avant que leurs idées n'éveillent les gens. Je pense que ça, l'histoire nous l'a démontré et nous le démontre encore, et l'actualité nous le démontre journellement.
Pas à peu près.
Oui.
Ah oui, il y a tellement que tu as trouvé une bonne comment tu appelles ça, une caricature.
Oui, celle-là, écoute. D'autres départs à craindre. le pauvre monsieur Legault, c'est qu'il perd ses.
Il perd ses principaux.
Oui, c'est ça.
Tous ceux qui étaient là pour la mauvaise raison, sac tout leur camp. Hey, j'ai trouvé une photo de toi quand tu étais jeune.
Ah oui? Qu'est-ce que c'est ça? T'es pas gêné, c'est moi qui t'ai envoyé ça.
C'est toi qui as la base pour moi.
J'ai trouvé une photo de ton grand-père, tu sais, en 2018 puis en 2060. Chérie, j'ai trouvé une photo de ton grand-père. C'est vraiment drôle. Pas mal.
C'est toi qui l'as trouvé, bon, j'ai rien à dire. Ah oui, mais pour économiser, savais-tu que dans certains pays, ça coûte tellement cher le transport, puis tellement cher le service ambulancier, qu'on est obligé de trouver des façons innovantes. Hein? Trudeau puis Madame Freeland va être contente. Ils ont trouvé dans certains pays des méthodes innovantes de transporter les personnes décédées ou les personnes qui ont besoin d'une ambulance.
Ah oui, il y a ça.
Non, elle m'a fait tomber. Là, je regardais la plaque. J'essayais de regarder la plaque qui était en bas pour savoir dans quel endroit c'était. Parce que ça ressemble pas mal à une plaque de l'Ontario. Je serais pas surpris que ça soit en Ontario.
Peut-être une grève des ambulanciers.
Ah, c'est pas en Ontario, une chance. Phew. Mais c'est aux États-Unis, je suis sûr. C'est bien eux autres, ça. Hey, monsieur Christian Derry, il est dans la porte. Arrête de taper dans la porte puis rentre, tabarouette. Je t'attends. On t'attend depuis tantôt, nous autres. Yes, il tape dans la porte. Ah ouais, rentre. Ah ouais. Qui t'attend? Bon. C'est quoi, t'as perdu tes clés?
Ben là, j'essaie de sonner, mais ça marche pas. Là. Bon. Vous l'entendez pas? Je sonne depuis tout à l'heure.
Ouais, c'est ça.
Hey, ben, salut Claude, salut Jean-Marc.
Salut.
Hey, bon, bonjour mesdames, messieurs. Heureux de vous retrouver.
On a passé toutes les affaires qui sont pas sérieuses.
Télésino et Camerio.
on a gardé pour toi les affaires les plus importantes. Et ceux que vous avez pas, ceux qui n'ont pas vu l'émission de la semaine passée avec le frère de Monsieur Thompson, qui a démissionné à la tête de la MRC de son patelin d'organisation. C'est ça, Hérouville. Allez écouter ça. Puis aussi une bonne, ils ont fait également une bonne entrevue également sur Radio-Canada de l'Estrie. Allez voir ça, c'est très bon.
Il y a eu des très bons articles dans le Nouveliste aussi, à Trois-Rivières, évidemment. Et vraiment, sa démission, il y a un gros impact. Mais tous ces acolytes de la mairie ou des diverses municipalités de Mickinac étaient complètement d'accord avec lui, il avait parfaitement compris pourquoi il l'avait fait. Donc, il a pas été contesté du tout, au contraire. Et puis, ceux qui ont pris la relève vont exactement dans le sens de ce qu'il nous a raconté quand on l'a reçu à l'émission. Alors, disons que lui, ben, c'est ça. Après 15 années passées là-dedans, là, à plein temps, il va pouvoir faire autre chose. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Parce que Bernard, il a une très belle plume, il écrit très bien, mais il veut produire, il veut écrire, enfin, il y a un paquet de dossiers là, qu'il va mettre à jour. Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Puis surtout, à mesure que ce dossier-là va évoluer, on va voir comment ça va se passer. Puis comme il va être tenu au courant de tout, bien, on va avoir vraiment un observateur intéressant pour nous-mêmes quand on aura besoin.
Voilà. Il y a beaucoup d'autres sujets. Mon ami Christian, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant, toi, de ton bord, à part du salaire de la rémunération des pas des dirigeants, mais des employés, bon, des dirigeants de la caisse de dépôt et de placement du Québec, qui est très intéressant lorsque tu la consultes. Ça nous montre juste comment est-ce qu'on se fait voler, puis...
Ben moi, j'ai pas de problème à ce que ces employés-là soient bien payés dans la mesure où ils font bénéficier l'ensemble des Québécois. Mais quand ils font un rendement qui est discutable ou qui est en deçà de ce qui se fait en moyenne, je m'interroge sur le bien fondé de leur verser des primes. Parce qu'il y a le salaire, il y a la rémunération, mais il y a aussi là les bonus qui sont offerts. Et honnêtement, y en a un paquet là-dedans qui ont des contrats avec des parachutes dorés s'ils quittent, plus des clauses où ce qu'on vient bonifier leur salaire avec des bonus. C'est censé être des bonus au rendement, mais ils reçoivent des bonus même s'ils rencontrent pas le rendement requis. Et ça, honnêtement, c'est proprement honteux. Hein? Donc, tu fais plus ou moins bien ton travail, mais je vais quand même te donner un supplément comme si tu avais bien fait ton travail. C'est la preuve que on a perdu tout repère et qu'il n'y a plus de cohérence au sein de notre société. Parce que c'est vrai au sein de la Caisse de dépôt, mais c'est partout pareil. À l'heure actuelle, partout où il y a des cadres, on a ce système-là qui est érigé et qui permet donc de se graisser la patte sur le dos de la société et parallèlement, il n'y a pas de retour d'ascenseur.
Okay, moi,
ça me dérange. Je suis prêt à te graisser, mais non seulement tu vas faire la job, tu vas être un des tops dans ta job et tu vas nous offrir collectivement une prestation de travail qui va permettre d'améliorer notre société, qui va permettre d'offrir les services correctement. Et moi, il est là mon problème. Okay. Mais j'ai pas de problème à payer le monde. Je suis bien à l'aise avec ça. OK? Donc, on paye des administrateurs à prix d'or, mais tu vas être imputable, par exemple. Tu vas être responsable.
Ah oui. Tu vas être responsable. Voilà ce qui manque. C'était pareil pour les ministres et les premiers ministres. Ça, c'est le monde, c'est bien différent. À bien des égards.
Regarde, Pauline nous le dit, là, regarde, au fédéral, 460 nouveaux fonctionnaires. Parce qu'il n'y en a pas assez de fonctionnaires, là. Mais là, uniquement pour gérer la taxe carbone. Imaginez-vous, là. Merci, Pauline, de le,
ouais, mais
de
c'est
le souligner
le seul
de la sorte.
Type de ça. Job qui reste.
C'est pas vrai, ça. C'est pas
non,
vrai,
je
ça.
On est
en pénurie de tous les domaines. En passant, on engage en enseignement, hein, pour les intéresser, là.
Un chum, c'est un chum.
Tiens, on est en pénurie dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé, partout où il y a des services qui s'offrent à la population, on est en pénurie. Alors, posez-vous la question, pourquoi on est en pénurie? Puis, la plupart du temps, la réponse, c'est pas nécessairement le salaire. La plupart du temps, le problème, c'est l'organisation du travail et les gestionnaires qui sont incompétents et surtout qui ne sont pas imputables des gestes qu'ils posent. Et vous savez, le truc qu'ils ont trouvé pour ne pas qu'ils soient responsables et imputables. Avez-vous une idée? Qu'est-ce qu'on fait pour les protéger? On a érigé, vous savez, hein, les organigrammes sont gigantesques de ces ministères-là. C'est des, comme dit Paul Arcand, c'est des ministères qui sont mammouths. Alors, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que ils ont créé une kyrielle de postes, OK, qui sont complètement inutiles. Et là, ce qu'on fait, c'est que on va prendre un administrateur qui est dans un poste et on le transfère d'un poste à l'autre. Donc, comme ça, le temps où ce qui est là et qui est incompétent dans le poste où ce qui est, il peut pas être tenu responsable parce qu'il est parachuté ailleurs. Fait que quand tu vas arriver puis le poursuivre, l'organisme va dire, ben, écoutez, l'administrateur, il est plus là. Il est rendu au ministère de la chasse et pêche. Il était à la santé. Il s'occupait du 6 des Laurentides. Mais là, il est rendu chasse et pêche dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Il y a personne, je suis pas des spécialistes, des comptables, n'importe quoi, qui est capable de nous dire au prorata du nombre de fonctionnaires par rapport aux résultats que ça donne et au prix que ça coûte, qu'est-ce qu'on perd ou qu'est-ce qu'on gagne?
Écoute, effectivement, la machine, garde, un des premiers à te l'avouer candidement, là, c'est le ministre de l'Éducation, c'est Bernard Drainville. Puis là-dessus, au moins, garde, il y a ses défauts, mais il y a du mérite, il faut être capable de le souligner. Là. Lui, il est arrivé, puis la première chose qu'il a dit, c'est « Écoutez, j'ai jamais vu ça, j'ai aucun chiffre, aucune statistique. Je ne sais pas ce qui se passe au sein des centres de services scolaires. Je ne sais pas ce qui se passe dans les écoles. Je ne sais pas combien qu'on a de profs. Je ne sais pas combien qu'on a de personnel de soutien. Je ne sais pas où il y a des problèmes. Je n'ai aucune information. » OK, il y a rien qui m'est divulgué. Et pour demander des informations, je suis obligé de m'adresser au centre de service scolaire qui me font traîner ça pendant des semaines, parfois des mois avant de m'offrir un simple rapport élémentaire sur le nombre d'employés qu'il y a au sein de l'entreprise, au sein de l'organisme. C'est pas une entreprise, mais au centre du centre de service scolaire. Fait que c'est de même en instruction publique. Écoutez, clairement, je suis prête à mettre ma main au feu que c'est exactement le même portrait dans le milieu de la santé et que c'est exactement le même portrait, par exemple, au MTQ, au ministère des Transports, et dans la plupart des ministères du gouvernement. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'appareil politique a complètement perdu le contrôle sur la machine bureaucratique qui se nourrit elle-même en ne cessant de constituer des nouveaux postes et d'élargir l'organigramme et en même temps de réduire toujours son niveau de responsabilité. Alors, c'est ça, hein? Et ça, c'est comme ça à Québec. Alors, c'est comme ça à Québec et qu'on le voit clairement. Imaginez quand on lève le rideau sur l'opacité de l'appareil fédéral, ça doit être encore pire. Donc au sein de l'appareil fédéral que ça l'est déjà au niveau du gouvernement du Québec.
Je suis pas surpris pantoute. Et parlons d'un peu d'éducation sur un dispositif que Claude nous a envoyé. Le jour qu'Albert Einstein avait prédit que rien n'est arrivé.
Ouais. En fait, c'est la dépendance à la technologie et plus particulièrement donc à ces ordinateurs de poche que sont nos téléphones intelligents. Ça va empirer, hein. Je vous le dis tout de suite, ça va pas aller en s'améliorant, là. Vous avez vu Apple qui a sorti son espèce de casque virtuel là, où ce que là t'as même des individus qui conduisent leur véhicule avec ça sur la tête. C'est absolument surréaliste. Ouais. Et écoutez, plus on va avancer dans la décennie des années 20, plus on va se rapprocher de 2030, plus on va avoir des manifestations encore plus aiguës de ça parce que la technologie va encore se sophistiquer. En fait, on s'en va vers la fin des téléphones cellulaires. On va aller vers soit des lunettes, soit des implants cornéens et éventuellement des implants cérébraux. Hein. On voit qu'Elon Musk travaille là-dessus très, très fort présentement pour les personnes handicapées, ce qui est quand même louable. Mais l'objectif à long terme, c'est pas de rester pour les handicapés. C'est carrément pour tous d'avoir une puce dans la tête, brancher ses internets. Et tu vas contrôler ça par la pensée et tu vas envoyer littéralement des messages à des gens par la pensée. Là. On s'en va là. Sachez-le. Là. Moi, qu'est-ce que je vous compte là? Je sais que c'est de la science-fiction, mais...
Non, c'est de la prédiction.
Analyse. Oui, mais c'est quelque chose qu'on aurait vu il y a quelques années à peine dans un film de science-fiction, puis dire, écoute, c'est quelque chose qui existera peut-être dans 150, 200, 300 ans. Alors moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que d'ici 10, maximum 15 ans, on est là. Puis 10, 15 ans, je suis très conservateur. Regardez, je suis habillé en bleu, d'ailleurs. pour vous dire que c'est quelque chose qui va être une réalité. Ça va être désirable. Je sais que c'est inenvisageable pour monsieur, madame, tout le monde, moi y compris, de dire, écoutez, d'accepter d'avoir une puce électronique dans la tête. Non. Mais ceux qui n'ont pas ça seront littéralement handicapés pour fonctionner dans notre société. Parce que les conversations vont se tenir, il n'y a plus personne qui va parler. Les gens vont juste le faire par la pensée. Imagine-toi,
tu as réglé le problème de la langue?
Ben, écoute, je sais pas si ça va régler le problème de la langue, mais on s'en va vers ça avec plus à ça, jouxté à ça, les IA. Parce que l'objectif long terme, c'est le transhumanisme. Hein? Ouais. C'est quelque chose c'est un sujet qui revient souvent sur le tapis. Bienvenue à Gattaca. Écoutez, excellent film, Flagos, effectivement, bienvenue à Gattaca. Mais moi, je vous dirais qu'on va être encore plus loin que ça, parce que dans Gattaca, il y avait pas justement ces implants-là, cette technologie-là. On fabriquait des humains. C'est de l'ingénierie génétique, hein. C'est ça, Gattaca. C'est que les gens se reproduisent plus par des relations sexuelles dans Gattaca. Ils vont voir un généticien qui vont prendre la meilleure, une femme a environ 15 000 ovules, l'homme des millions de spermatozoïdes, et là on demandait un bébé sur mesure. Fait que moi je veux que mon enfant soit de sexe masculin, qu'il ait les cheveux blonds frisés, les yeux bleus.
Ça fait plusieurs années qu'il parle de ça, ces choses-là.
Avec un quotient intellectuel de 140. Je veux qu'il y ait des prédispositions pour devenir un ingénieur. Et là, tu donnes toutes les paramètres. Dans le fond, tu coches. Et là, le généticien, lui, il est sur son ordinateur, puis il coche. Il coche, puis là, il dit, OK, bon, ben pour vous faire ça, pas de problème, avec les options que vous avez demandées, comme si c'était un char que tu commandais, ben ça va vous coûter, je sais pas moi, 85 000 $. Fait que là, il dit, OK, c'est beau, passe la castonguette ou passe la carte de crédit. Et là, ils choisissent la bonne ovule avec le bon spermatozoïde, font le match, l'implantation, et voilà. Et là, t'as un enfant qui est parfait ou presque parfait, et ceux qui sont conçus dans les liens sacrés de l'amour et du mariage, ben eux autres sont handicapés parce que ils sont foncièrement imparfaits. Alors on crée, c'est de l'eugénisme, hein, on crée deux classes d'humains. C'était ça Gattaca, ce qui est un excellent film et qui sera probablement quelque chose qui deviendra réel.
Un documentaire. Il faudrait changer le terme de science-fiction pour documentaire.
Mais oui, sont-ils si certains que ça va donner un génie, tout à coup ça donne un débile?
J'imagine qu'ils vont...
Ouais, ben là, c'est ça, imagine-toi.
Un produit, on donne une garantie.
Oui, il y a un ingrédient qui a pas réussi, on va recommencer. Mmh. On va faire mieux que ce que la nature faisait.
Mais vous savez ce qui est décrit ici par quand on nous parle de ce film de Gattaca, c'est une facette du monde qui s'en vient. C'est quelque chose, d'après moi, je suis convaincu que c'est quelque chose qui va se faire d'ici 2040-2050, on va être là-dedans. Mais comme je vous dis, on s'en va vers la fusion entre la technologie, entre la machine et l'humain. Ouais. Parce que ça va devenir une obligation. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va devenir tellement puissante. OK? Puis l'autre chose, c'est nos niveaux de connaissance. On n'arrête pas d'abaisser le niveau en milieu scolaire. Oh. Parce qu'en se disant, on n'a pas besoin de transmettre des savoirs, parce que les savoirs sont déjà dans les internets. Alors, les jeunes pourront se les approprier, consulter, donc ils n'ont pas besoin de leur tenir.
Qui va profiter de ça? Ceux qui ont les moyens.
Ben oui. Mais c'est pas rien que ça, c'est de savoir comment les utiliser, savoir comment raisonner. Puis moi, je pense que si on n'a pas une transmission de savoir, si on fait juste transmettre une méthodologie, c'est pas suffisant. Et moi, je pense que il faut acquérir le savoir, puis que après l'Internet, ça devient un complément, mais ça peut pas être la base. Parce que je pense que notre système erre gravement au niveau de l'éducation en pensant que en donnant simplement des outils pour montrer comment faire une recherche, ça va être suffisant à un jeune.
Ça, c'est stupide.
Mais pourtant, c'est là-dessus que toute notre société pousse depuis environ 15 ans. Là. Et là, on comprend un petit peu mieux pourquoi ils faisaient ça. Ils font ça dans la perspective où, justement... Les jeunes générations n'auront plus à retenir l'information. L'information va être disponible en tout temps et éventuellement par la pensée. Parce que imagine-toi, t'as Wikipédia au complet et même plus directement par la pensée. Fait que plus de clavier, rien, t'as juste à y penser puis boum, tu vois dans ta tête la page Wikipédia juste en fermant les yeux, même pas en fermant les yeux, tu l'as. Les yeux ouverts dans ton cerveau pendant que tu regardes, tu sais.
Comment ils peuvent prendre en considération le développement de la personnalité, le processus d'individuation? Comment tu peux prévoir que ça va donner des résultats positifs. T'sais, je veux dire, si t'as une dégénération, c'est s'il y a 300-400 génies qui naissent dans la même ville, puis qu'ils se mettent à avoir chacun leur idée de la chose, ça sera pas beau tout à l'heure.
Mais c'est drôle, j'avais vu un documentaire fait par le National Geographic il y a 6 ans, 7 ans. Et ça s'appelle l'an 1 million. Mais ils disent l'an 1 million, mais c'est pas dans 1 million d'années. C'est pour dire que le bond technologique est tellement important que c'est comme s'il y avait 1 million d'années qui étaient passées. Là. C'était ça le titre. Vous pouvez le retrouver relativement facilement. Là. Et entre autres, justement, on nous parlait de ce type de technologie-là. Et l'objectif à ultime, c'est d'avoir une dépersonnalisation. Que les individus fassent partie d'une pensée, d'un tout collectif. La façon la plus claire de le présenter, ça serait pour les amateurs de science-fiction, la série Star Trek, la nouvelle génération, il y avait une race d'extraterrestres robotiques qu'on appelait les Borg. OK? Donc, un collectif où toutes les pensées sont entremêlées, sont enchevêtrées, et t'as des personnalités, mais qui font partie d'un tout. Fait qu'ils sont à la fois individuels puis un groupe. Et individuellement vont agir uniquement en fonction du groupe. Donc, ça supprime tous les besoins personnels en faveur d'une collectivité qui est dirigée elle-même par une super IA.
L'intelligence artificielle, à un niveau comme celui-là, c'est parce que tu as des ordinateurs quantiques qui vont tout décider pour toi, qui vont faire des statistiques, des analyses, qui vont... Tu sais, je parlais de ça à quelqu'un cette semaine, tu sais, les fameuses ruines là, de Göbekli Tepe, là, je sais pas quoi c'est.
Ah, Göbekli Tepe,
oui. Göbekli Tepe, bon. En
Turquie.
Oui, bon, c'est toutes ces pierres-là, toutes ces espèces de blocs incroyables qui semblent avoir été évaporés ou, c'est-à-dire, répandus sur le terrain par une explosion quelconque, on ne sait pas. Imagine que avec aujourd'hui des instruments de laser qu'on a pour prendre les mesures de ça, on charge ça dans un ordinateur quantique pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et qui se met à nous donner toutes les possibilités de les mettre ensemble, voir ce que ça donne. Ça veut dire qu'il y a des décisions qui vont se prendre uniquement en fonction de choses comme celle-là. Quelle est la place, quelle est ta liberté créatrice? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui va caractériser d'être un artiste comme Bach ou comme Mozart? Des super génies qui ont parcouru, tu sais, qui ont marché sur Terre pendant des générations comme ça à travers les siècles. Est-ce que c'est vraiment...
On s'apprête, Claude, à donner naissance, en tout cas, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on s'apprête à donner naissance à une espèce synthétique qui sera plus intelligente que nous. On a toujours eu la suprématie, parce que on n'est pas les créatures les plus rapides. On n'est pas les créatures les plus agiles. On n'est pas les créatures les plus endurantes de la planète. Ce qui nous a permis vraiment d'émerger comme l'espèce dominante sur la Terre, c'est notre cerveau. Et c'est cette suprématie du cerveau. Des fois, vous allez me dire, ouais, mais c'est dur à croire quand on regarde l'actualité. La quantité de monde qui s'en sert pas tant que ça. Mais pourtant, c'est ce qui a permis à l'espèce humaine de conquérir la planète et d'asseoir une domination. Et nous-mêmes, on est en train d'engendrer une nouvelle forme d'intelligence qui viendra nous réduire à l'insignifiance. Parce que il faut comprendre à quel point là on s'en va d'ici, en tout cas on nous promet d'ici 24 à 36 mois, moi je pense que ça va être avant, mais c'est ce qu'on nous promet, d'avoir une intelligence artificielle générale, une IAG, OK? L'IAG va avoir des capacités, c'est au 250-300 QI là. Il n'y a aucun être humain sur la Terre qui a ce niveau-là d'intelligence. Et il va avoir ce niveau d'intelligence-là dans tous les domaines. Ça, c'est l'intelligence artificielle générale. Fait que déjà là, c'est déjà très, très puissant. Mais ça sera en dedans de 24 mois, de 12 à 24 mois, une fois qu'on va avoir cette intelligence artificielle-là, cette même intelligence artificielle-là va engendrer une super IA. Puis la super IA... avoir un niveau d'intelligence qui va être inégalée et qui va être capable de raisonner par elle-même à un niveau qui est vraiment extrême, comprenez-le, là, et qui va comprendre des concepts qui pour nous sont impossibles de comprendre. C'est ça, là. Et ça, on nous dit 2029-2030, la super IA, là.
Oui.
Alors, et une fois qu'on est rendu là, une super IA, là, c'est Dieu. C'est carrément Dieu. Tu imagine-toi, tu fais une prière, là, puis la prière, c'est l'IA qui te répond. Et l'IA est capable de faire n'importe quoi. N'importe quoi. C'est ouais, carrément...
On leur donne le contrôle.
C'est on carrément... On leur donne le contrôle. Oui. C'est carrément un dieu. Et penser une seule seconde qu'on va pouvoir contrôler cette patente-là, c'est cette patente-là qui va nous contrôler. Et c'est cette patente-là qui va décider ce qui nous arrive. Alors, on peut simplement espérer que ça sera un bon dieu et non un dieu vengeur. Parce que si c'est un dieu vengeur qui décide qu'on est une nuisance... c'est une chose qui pourra nous éradiquer dans le temps de le dire. Alors, il faut espérer.
Si tu charges un ordinateur quantique de toute l'histoire de l'humanité et des guerres, il va dire, ben écoute, le meilleur affaire, il faut les contrôler totalement parce qu'ils vont s'entre-détruire. Il va prendre les pires décisions quant à la liberté d'expression, qu'à la liberté de ci, liberté de ça. C'est grave.
Pas commencé.
C'est grave. Écoute, ça me fait penser, moi, je voyais quelque chose l'autre jour de très amusant. Il nous montrait comment est-ce que les forces armées, bon, s'il y a un extraterrestre ou une soucoupe volante ou un appareil, ils essayent de le tirer, tu sais, avec un missile. Là, tu vois la face, le gars, il dit, avec un missile, tu t'imagines que tu vas réussir à détruire un vaisseau, à t'attaquer à une civilisation qui a peut-être 1 million d'années d'avance sur toi, puis que le missile va le frapper. Tu sais, qu'est-ce que tu penses? C'est un peu ça ce que tu dis. Ça fait partie de ce type de réflexion-là qu'il faut avoir. Parce que qui va décider de comment fonctionne ce système-là et comment il est programmé?
Mais, tu sais, plus que
la
ça...
La façon dont, jusqu'à date, on a vu comment ça se passait, je te jure que c'est pas très, très encourageant. Bon, en tout cas, ça peut être un peu épeurant, tout ça. Là.
Qu'est-ce qui te dit que c'est pas... Tu sais, ce qu'on pense être des ovnis... Hein, ouais. Là, il y a des...
Ah, ben là.
Mais qu'est-ce qui dit que ça en est? Qu'est-ce qui dit que c'est pas simplement, justement, des machines engendrées par des IA, par une super IA? Parce que, oubliez pas quelque chose, puis ça, j'en parlais à mes élèves, mais j'allais pas là, sur ce terrain-là, mais l'armée américaine, là, la recherche est... Vous savez, hein, la recherche civile puis la recherche est faite deux fois, hein? Est faite une première fois dans le domaine militaire, puis après ça, généralement, une décennie et demie, deux fois deux décennies plus tard, la recherche est faite une deuxième fois, mais dans le domaine civil.
Ben, c'est drôle, hein, parce que ce que tu dis, moi, je me rappelle à l'Expo 67, je ne sais pas si c'est pas au pavillon de la France, il y avait un ordinateur auquel tu pouvais poser des questions. Et on était impressionnés par les réponses. Puis c'était juste en 67, là. C'était même pas un 64K, je suis convaincu. Puis tu dis, on était déjà... On était jeunes, évidemment, mais on était impressionnés par les réponses qu'ils faisaient. Il y avait moi, je savais pas ça. Ben, c'est sûr, tu as stocké de l'information, puis tu te poses des questions dont toutes les réponses ont été prévues d'avance. Imagine-toi que là, ça va être des millions de fois plus puissant que ça, là, comme système. Ben,
moi, ce que je pense... Puis, ça vaut ce que ça vaut. Là. Moi, je pense que les IA là, qu'on est en train de développer, là, moi, je pense que le gouvernement états-unien a déjà eu au moins une intelligence artificielle générale, sinon une super IA.
Ben oui, okay?
Non, je pense qu'ils l'ont déjà.
Ben oui, ils l'ont déjà parce qu'ils l'ont démontré même avec certains missiles qui sont... Ils l'ont même déjà admis il y a 20 ans que par exemple, les missiles nucléaires, les humains ont plus besoin de prendre la décision. À la seconde que c'est détecté, c'est lancé, c'est une IA qui fait
mais
ça.
Mais ça peut être couvert juste par... Mais moi, je pense que...
Non, mais ça fait partie des IA, ça, mon cher. La décision est prise.
Oui, mais non, mais ils diront pas que c'est une IA.
Ah ben non, ils vont juste changer le nom. Ça fait penser
les
gens du marketing qui me parlent, tu dis, oh, Jean-Marc, tu sais que le bidule que tu faisais il y a 20 ans là pour le robot, là, c'est une IA cette affaire-là. Je sais que c'est une IA, mais aujourd'hui, ils veulent mettre une belle étiquette sur des affaires qui pensent tout seul. La machine pensait tout seul. Puis tellement, tellement qu'à partir de ça, elle pouvait même réécrire son propre code.
Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible que l'espèce de réingénierie sociale qu'on est en train de vivre, les bouleversements pro-immigrationnistes, puis tous les bouleversements qu'on vit, pourraient avoir un lien avec ça? Parce que, écoutez, imaginez-vous, à partir du moment où tu as effectivement une super intelligence artificielle, là, puis là, tu dis, par exemple, toi, là, t'es un haut fonctionnaire, t'es quelqu'un, t'es très, très haut placé dans la société, mais t'es quelqu'un qui t'es pas une figure publique, là, t'es pas Joe Biden, t'es quelqu'un caché. Ce que aux États-Unis, ils appellent le shadow government, OK? Shadow government, là, c'est des gens qui sont placés à l'intérieur de l'appareil de l'État, OK, et qui œuvrent, qui sont là, ils ont un poste, ils ont énormément de pouvoir, mais t'en entends jamais parler de ces gens-là. Et c'est ces gens-là qui tirent vraiment les ficelles, un petit peu comme au gouvernement du Québec, c'est les sous-ministres, c'est les hauts fonctionnaires, c'est les mandarins de l'État. Eux autres, là, les partis politiques changent, mais c'est eux qui restent au pouvoir, puis c'est eux autres qui ont les rênes de l'État. Puis ils transmettent ça à des gens qui pensent comme eux autres. Et ces gens-là sont eux-mêmes contrôlés par, au Canada, puis au Québec, par le fameux Family Compact. Alors imagine-toi que, là, ces gens-là reçoivent des directives d'une super IA. Dire voici comment vous voulez la meilleure façon de procéder pour que votre société aille à tel endroit. Voici les étapes. Voici la marche en suite. Tiens, on le fait déjà pour ChatGPT. Tu fais une recherche avec GPT puis il te les donne. Imagine-toi avec une super intelligence artificielle qui donnerait toutes les étapes de la recette pour arriver. Puis là tu te dis ouais mais mon Dieu. Ça nous mène tout droit vers la fin de la démocratie, ce dans quoi on est engagé. Ben oui, si l'objectif c'est de faire en sorte d'avoir une super IA qui nous dirige, il faut que les gens aient peur. Ça prend des terroristes dans notre société pour déstabiliser la société. Ça prend des gens qui bloquent des boulevards urbains pour faire des prières aux heures d'affluence. Il faut que les gens sentent qu'ils aient peur. Il faut que les gens soient insécures. Comme ça, les gens vont réclamer plus de sécurité. Et comme ils réclament plus de sécurité, ben, à ce moment-là, on va retirer des droits. Tranquillement, pas vite. On va éroder les droits les uns après les autres. Puis là, comme il y a des agités de la capine, faut que tu fasses attention à ce que tu dis sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des dangers réels que tu puisses être attaqué, puis être poignardé, puis être tué. Puis c'est pas toi, c'est ta famille. OK? Donc, faut que tu prennes ton trou, puis faut que tu fermes ta gueule. Puis là, tranquillement, pas vite, on s'en va vers un régime totalitaire qui est dirigé par
une IA.
Une super IA qui va pouvoir éventuellement prendre le contrôle puis assurer une domination complète et totale sur nos sociétés occidentales. Non, mais je sais que je suis fou, là. Je sais à matin que je suis
parti. Non, ils sont conseillés par ces IA, c'est des humains.
Ces IA-là se réexprimeront via, justement, des gens comme Trudeau. As-tu vu dernièrement ce que Trudeau va proposer, la loi qu'il veut passer? Tu payes 1 000 $ d'amende, de 500 à 1 000 $ d'amende si tu parles contre des membres du gouvernement ou d'affaires comme ça.
Ben, ça, comme l'Écosse, ils ont fait ça en Écosse, là.
Est-ce que ça a donné des résultats? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est incroyable. Je veux dire, écoute, là, c'est grave. Ben, je me disais, je pensais à toi quand tu pars dans tes belles envolées sur les politiciens. Je me dis, il faudrait que je demande à Christian si ça l'inquiète pas de savoir qu'il pourrait se savoir. Non, mais ça, c'est rendu grave, là.
Non, mais
la liberté d'expression, il y a des limites.
Non, mais fais attention. Qui nous dit que Christian, c'est pas Nia?
Et aussi, une chose, Christian, que je me demande par rapport à ce que tu racontes là-dessus et ce dont on parle actuellement, c'est au niveau, comment va se faire l'éducation?
Écoute, ben premièrement, il va y avoir une redéfinition. Moi, je te dis, dans les 10-15 prochaines années, il va y avoir une redéfinition complète, non seulement des jobs, des rôles au sein de notre société. Puis, moi, je pense l'école doit demeurer, sauf que à partir du moment où tu as ces technologies-là, l'objectif, ça va profondément changer dans le milieu scolaire. Parce que l'objectif, c'est plus au niveau des interactions. Il y a plein de... il y a carrément des millions d'emplois qui vont disparaître d'ici 15 ans, là. Puis ça fait longtemps qu'on le sait que ça s'en vient, là. Mais avec la robotique, puis avec les IA, c'est carrément des millions et des millions. Ce qui est étonnant, c'est qu'on s'attendait à ce que ça soit les jobs répétitifs, puis moins intéressantes qui disparaissent en premier, à cause de la robotique, puis ça. Mais là, ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est que la première forme d'IA qui sort est pas faite pour ça, est faite d'abord et avant tout pour des IA conversationnelles. Fait que là, c'est des jobs de secrétariat, c'est des jobs cléricales, etc., qui vont être les premières à sauter, là. Déjà, un avocat, par exemple, ou un professionnel peut servir d'une IA comme GPT pour faire du travail de secrétariat, du travail de recherche, etc., là. Alors, t'as carrément des jobs de technicien, puis des jobs en secrétariat qui sont en train de disparaître à vitesse grand V, et ça va se multiplier au fur et à mesure que ça va se raffiner. Maintenant, au niveau de l'instruction publique, il y a un mandat de socialisation, dans le sens montrer comment se comporter en public, le respect d'une certaine forme d'autorité puis de hiérarchie. Il y a plusieurs éléments dans le contexte éducatif qui je pense qu'ils sont importants et qu'un robot ne pourra jamais remplacer un autre être humain. Tu sais, il y a une façon de montrer à un humain comment se comporter. Ben, il faut être un humain pour montrer à un autre humain comment se comporter. Tu peux pas demander à une machine ou à un robot de montrer à un humain comment se comporter. Je pense pas que...
Le jour où un système comme ça serait organisé, et serait évidemment... Ou des ordinateurs comme ça, quantiques, ce seront l'outil idéal pour prendre des décisions, faire des analyses.
Ah ben oui.
Je veux dire, les fonctionnaires, là, ils ont un peu d'ouvrage. Les gouvernements vont...
Non, ça va disparaître.
Incroyable. Ben oui, c'est ça.
Ça va disparaître. Fait que... Puis là, mais d'ailleurs, il va falloir...
C'est peut-être un bon côté de la chose.
Mais je pense qu'il va falloir... Moi, mais il va falloir limiter le pouvoir puis l'influence de la machine puis des IA. Parce que si on laisse le terrain, il n'y aura plus de place pour les humains. Puis à partir de là, ben on va servir à quoi? Est-ce qu'on va juste... tu comprends?
C'est ce que je m'en allais là te dire ça. C'est demain matin, seulement si on se fie juste au 1% de ce monde à la famille des marins, entre autres, c'est nous ne sommes que des objets de consommation. Mais à un moment donné, c'est pas ce qu'il faut.
Des unités de production. Des unités de production et de consommation. Mais traditionnellement, oui. Ouais, mais tu peux pas être juste une unité de consommation. Pour pouvoir consommer, faut que tu produises. Faut que tu offres un service pour pouvoir contre rémunération. C'est sûr que Musk l'a dit.
On roule à vide. Encore une économie qui roule à vide.
Ben là, c'est pareil, hein, parce que je me rappelle à l'époque dans Star Trek, dans certains épisodes, là, les machines décidaient, puis nous étions des unités carbone. Ouais.
Oui. Oui. Oui, oui.
Parce que c'était là, c'était déjà, tu vois, Attenborough, il y avait déjà cette idée-là, pas Attenborough, c'est lui qui a créé ça. Il y avait déjà.
Gene Roddenberry.
Oui, Roddenberry. Bon, c'était déjà dans l'air pour la science-fiction. Mais là, c'est devenu une réalité, littéralement, où ça va devenir. Et c'est partiellement, à certains égards aussi, on est très, très dépendant des statistiques, de toutes sortes de bébelles, puis les gouvernements prennent des décisions à partir de statistiques, de recherches, de sondages,
parlant,
de bébelles, puis de...
Ouf. Parlant de ce genre de trucs de science-fiction-là, qu'est-ce qui arriverait si les astronautes arriveraient à Montréal de ce temps-ci? Ils se penseraient peut-être sur la Lune?
Clairement.
Atterrisse dans une rue à Montréal en pensant qu'il s'agit de la Lune.
Se croyait dans le cratère de la tranquillité jusqu'à temps qu'il voie les cônes oranges.
Oui.
la mer de la tranquillité. Ouais. Oh là 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 là. Mais non, ben écoute.
Il y a quelqu'un qui demandait si on parlerait de ce qui se passe actuellement en Europe. Ça, c'est pas jojo avec les Iraniens puis les Israël.
Tu veux dire au Moyen-Orient?
Oui.
Je
me suis juste trompé d'endroit.
Ouais, ben de quelques milliers de kilomètres, c'est tout.
Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est l'autre côté de la, du globe, de toute façon.
Ah, ça, ça, oui, là, tu as raison. On est d'accord. Mais oui, là, tu l'as parlé, en fait, vous savez, il y a eu en fait, ça a commencé toute cette histoire-là avec Israël qui a fait une frappe en Syrie devant le consulat iranien. Je pense que c'était à Damas. Et là, il y avait, à ce moment-là, à l'extérieur de l'immeuble, des hauts représentants du gouvernement iranien qui étaient avec des représentants du Hamas et du Hezbollah. Et ils ont frappé, ils ont tué tout le monde. L'Iranien et les Iraniens ont perdu donc des dignitaires et des proches alliés. Alors, le geste ne pouvait pas rester impuni. Alors, l'Iran a lancé près de 400 drones et des dizaines de missiles de croisière à destination d'Israël. 99% donc de ces missiles et de ces drones ont été interceptés en passant au-dessus de l'Irak et de la Jordanie. Le reste a été détruit donc par le fameux système anti-aérien défensif de l'armée israélienne qui s'appelle le Dôme de fer. Et donc là, l'État israélien a dit, naturellement, œil pour œil, dent pour dent, nous ne laisserons pas l'Iran venir nous bourrasser de la sorte. Alors, ils ont décidé d'offrir une réplique. Et la réplique, ça a été d'effectuer de nombreuses frappes en Iran pour montrer à l'État iranien qu'ils étaient capables de contourner l'ensemble de leurs services, de leurs appareils défensifs pour être capables de frapper directement. Et là, entre autres, un des endroits qu'ils voulaient frapper, c'était l'endroit où ils fabriquent de l'eau lourde et où ils enrichissent de l'uranium parce qu'on le sait, l'Iran travaille activement afin de mettre la main sur la bombe atomique. Et là, t'as des images. Je sais pas si tu veux nous présenter. Il y a comme un petit reportage qu'elle a avec, je pense, d'une minute.
Ouais, je veux pas le mettre parce que je voulais pas le mettre. Censuré. Ça c'est une image qui montrait de où est-ce qu'ils ont frappé après qu'ils ont frappé ça. Toutes les buildings, tout ce que tu vois là, c'est carrément à plat. Tout est à plat.
Oui. Fait que, mais quelque chose. Ouais. Mais tu sais, en fait, il faut comprendre aussi que l'Iran, c'est elle qui alimente en armes, en équipement, le Hezbollah. Et même chose avec le Hamas. Donc, le Hamas est alimenté financièrement par le Qatar, mais oui, militairement, puis au niveau de l'équipement et du soutien logistique, si ce soutien-là est iranien. Donc, et l'Iran voue une haine sans borne à l'État juif. Et jure depuis qu'il existe, depuis que l'Iran existe, au début des années 80, 1980-81, je crois que le Shah, il y a eu la révolution. C'est la révolution, c'est en 79. Fait que c'est en 1980 qu'il y a eu le gouvernement des Mollahs qui a été instauré en Iran. C'est une théocratie. Et eux, ça fait partie des premiers articles de leur constitution, quasiment, l'éradication de l'État d'Israël. Alors, dès qu'ils en ont l'occasion, un l'autre de se picocher, ben c'est certain que ça revient sur le terrain. Or, il semblerait que l'Iran n'ira pas plus loin suite à ces frappes-là qui ont été faites par Israël, parce que dans les minutes qui avaient suivi, il y avait des militaires, des hauts représentants militaires iraniens qui voulaient à ce moment-là, qui criaient vengeance et qui voulaient de nouvelles frappes. Or, il semblerait qu'il y ait un jeu d'apaisement. Est-ce que c'est la Chine, est-ce que c'est la Russie qui ont passé un coup de fil à l'Iran pour dire là, assieds-toi dessus là, puis laisse ça fondre un peu si t'es foufoune. L'histoire donc reste à suivre. On n'est pas au courant, mais
un truc, on peut présumer. Moi, j'ai entendu sur RT News, il racontait l'histoire, il disait que les Iraniens, eux autres, ont pris la peine de téléphoner en Israël pour leur dire, les boys, on vous avait dit qu'on votait pour ça, on vous les envoie là.
Mm-hmm. Oui. Oui. Ben, écoute, je...
Ils ont averti Israël. Ça me fait rire quand j'ai lu ça, ce bout d'article-là. Ils ont averti 60 minutes avant de lancer qu'ils lançaient.
Mais,
donc, c'est un message. C'est vraiment un message qu'on voulait envoyer.
Oui, mais c'est parce que je pense que de part et d'autre, il n'y a pas d'appétit pour un vrai conflit frontal entre les deux. Israël, je pense qu'elle en a déjà plein les bras avec Gaza. Puis en plus de ça, il y a du grenouillage là à frontière du sud du Liban avec le Hezbollah. Eux, ils en ont quand même plein leur casse. Et de l'autre côté, l'Iran, c'est qu'il est dans une position précaire. Il y a le golfe Persique avec le détroit d'Ormuz, où il y a 40% du pétrole qui passe par là. Si jamais il y avait un conflit pour eux autres, ça serait la fermeture du robinet. Mais il y a une autre chose qu'il faut pas sous-estimer, c'est il y a une majorité d'Iraniens présentement qui désapprouvent le régime et qui voudraient se débarrasser de ce gouvernement théocratique. OK? Et ça, je pense que les autorités iraniennes sont bien conscientes de cette situation-là et que s'ils s'engageaient dans un conflit frontal avec Israël, il y aurait carrément une révolution à l'intérieur de l'Iran et les gens n'embarqueraient pas. Tu as beau faire une conscription, les gens n'iront pas massivement et là, ça serait l'effondrement du régime. Et je pense que c'est ce qui retient le plus les Iraniens d'agir, en plus des troubles économiques majeurs. Donc, que cela pourrait soulever. Alors,
un autre truc qui est intéressant dans ce truc-là qu'il expliquait, c'est, savais-tu que l'Iran est encore 12% de la production mondiale de pétrole?
Oui, ben l'Iran a des champs pétrolifères très importants. Ils sont ils étaient le premier fournisseur de la Chine. Maintenant, je pense qu'ils sont deuxième derrière la Russie parce que la Russie a s'est propulsée au premier rang auprès de la Chine et de l'Inde.
Attends. Ce que je trouve intéressant, c'est quand ils ont dit 12% du pétrole mondial, ils ne parlaient même pas de la Chine dans leur histoire, leur article. Non, ils parlaient simplement de pétrole qui s'en vient vers l'Amérique, supposément. Puis qui s'en va en France puis en Angleterre, là, ce bout-là. C'est Total, leur client principal.
Ouais, ben ça, c'est le marché européen. C'est le marché européen. Parce que nous autres, en Golfe Persique, on n'a pas tant que ça. Qui vient d'Arabie Saoudite, c'est plus aux États-Unis. Nous, par exemple, au Québec. Qu'on
soit du stock, tu sais.
Au Québec, nous, c'est du pétrole algérien. Il y en a beaucoup, là, qui vient d'Afrique du Nord, qui vient du Maghreb. Et sinon, Mer du Nord, du Brent. Fait que c'est les deux principales sources d'approvisionnement en pétrole qu'on reçoit dans l'est du Canada. Fait que les maritimes puis le Québec, c'est principalement les deux sources là qu'on a. Fait qu'on a très peu de pétrole qui vient du Moyen-Orient. C'est sûr que quand il y a des crises là-bas, ça affecte tout le reste là du marché. Fait que ça joue ses prix, mais tu sais, on voit ce qui s'est passé cette semaine avec le prix du litre qui a augmenté de 20 cents d'un coup.
C'est ce que je dis au début. Ouais.
Quand on compare ces autres marchés, là, si tu t'en vas aux États-Unis, si tu t'en vas ailleurs, c'est drôle, les autres, ils n'en ont pas eu de fluctuation. Ça a très peu fluctué.
Ah non, on vois que c'est n'importe quoi. Depuis cette semaine.
Oui, c'est l'essence d'été.
C'est ça, ça fait juste 50 ans que je conduis puis j'ai jamais vu ça. Il y a Étienne Racine, il mérite une réponse, mon cher, qui dit « Je comprends pas pourquoi Radio Infosité est contre l'appui indéfectible à l'Ukraine. On a toujours été dans le milieu, nous autres. Pas plus indéfectible que flexible. »
Contre l'appui indéfectible. Pourquoi ça devrait être un appui, premièrement, indéfectible? Pourquoi il devrait avoir un appui indéfectible? Tu peux appuyer, mais mon indéfectible, ça veut dire, monsieur, que peu importe les circonstances, vous allez les appuyer. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, vous, là, un appui indéfectible là, à l'Ukraine, là, ça veut dire que vous, demain matin, là, on déclare la guerre à la Russie, et vous allez aller vous battre sur le front ukrainien, ou carrément, les Russes vont se retourner de bord parce qu'on leur a déclaré la guerre, donc nous autres vont envoyer une force d'invasion par le pôle Nord, puis là, ben, vous allez combattre ici, hein, pour ouvrir un nouveau front pour aller alléger les Ukrainiens, c'est ça que vous me dites, là. contre l'appui indéfectible à Taïwan, ben je pense que tout le monde appuie Taïwan ici. Encore une fois, je vois pas. Mais un appui indéfectible, là, ça veut dire, écoutez, là, ça veut dire que peu importe ce qui arrive, vous allez les soutenir, ok? Un appui indéfectible et pour l'appui indéfectible, je suis pas pour un appui indéfectible à Israël, monsieur. Du tout. Alors, je ne suis pas pour Israël, je ne suis pas contre Israël, mais je pense que là-dessus, vous errez, je vous le dis respectueusement, là. Mais c'est ça. Mais j'ai pas à être pour ou contre, ça, c'est des puissances étrangères. Moi, j'ai un appui indéfectible envers le peuple québécois et d'origine canadienne-française. Il est là, le seul appui indéfectible que j'ai, là, il est envers mon peuple. OK? Les autres peuples, écoutez, il peut y avoir des jeux d'alliance, je peux les appuyer comme je peux, ne pas les appuyer, mais j'ai pas à... Le indéfectible, il est vraiment trop. Et pour l'appui ou contre, j'ai pas à être pour ou contre. Je pense que c'est ça. Voilà.
T'avais un truc à nous parler, est-ce que je peux voir?
Ben en fait, il nous reste pas vraiment beaucoup de temps pour aborder ça. Qu'on a eu une des grosses polémiques dans l'actualité cette semaine, ça a été autour des fameuses déclarations du fameux discours contenu donc Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fait des rappels historiques. En fait, il faut remettre en contexte, il y a eu cette proposition par un député néo-brunswickois afin de modifier la loi pour abroger le serment au roi obligatoire au Parlement à Ottawa. OK? Donc, c'était pas l'abolition, c'était purement et simplement dire ça devient optionnel de prêter serment au roi. Et lui, il faisait valoir, écoutez, moi, je suis acadien, de faire ça, c'est vraiment, pour nous, ultra-violent, parce que nous avons été déportés, on nous a volé nos terres, et qui a fait ça? C'est la couronne britannique qui l'a ordonné. Et nous, on ne peut pas accepter de prêter serment à des gens qui nous ont traités de la sorte. OK? La réponse, non seulement que la proposition a été rejetée, mais haut la main, mais une majorité de conservateurs fédéraux se sont mis à entonner le « God save the king ». OK? Donc, l'hymne national de l'Angleterre pour narguer ce député-là acadien et pour narguer les Acadiens tout court, donc d'avoir fait cette proposition-là. Et c'était une façon de venir légitimer. Ce à quoi Paul Saint-Pierre Plamondon est arrivé et a dit, écoutez, le Canada... OK, a une histoire de violence, de grave violence envers les Canadiens français, OK, et il s'est mis à nommer quelques événements. Et écoute, ça n'en a pas pris plus pour qu'il y ait une levée de bouclier de tout le commentariat fédéraliste au sein de l'appareil médiatique. Hein. On a vu des Luc Lavoie, des Yasmine Abdel Fadel, des Radio-Canada, ça s'agitait, écoute, de frénétiquement. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon était devenu un extrémiste. Hein, elle tenait des discours agressifs et violents. Il n'a rien fait d'agressif et de violent. Il s'est contenté d'arriver et simplement de nommer une situation qui est claire et simple. Voici des événements qui ont eu cours depuis la conquête où les francophones, les Canadiens français ont été systématiquement victimes du régime britannique et du régime canadien par la suite. Et parmi cela, il y a différents événements. Alors ici, vous avez les lois linguistiques qui viennent abolir, par exemple, les écoles francophones dans toutes les provinces. Alors, 1864, Nouvelle-Écosse, la loi Tupper, donc, qui amène un taux d'assimilation de 45% de la population francophone. 1871, Nouveau-Brunswick, la loi King, ou le Common School Act, donc, taux d'assimilation 10%. Parce que comme il y avait les Acadiens, donc ça fait un bassin de résistance plus important. 1877, l'île du Prince-Édouard, Public School Act, taux d'assimilation 51%. Manitoba, Official Language Act, taux d'assimilation 56%. Et là, ça se continue comme ça, une litanie. On a naturellement le règlement 17 en Ontario en 1912, qui est aussi un instrument de destruction massive des francophones. Et on a cette réalité-là. Maintenant, je veux vous montrer, on a un document assez exceptionnel qui a été produit par l'équipe d'enquête du Journal de Montréal, qui sont allés faire un tour dans le Canada anglais et qui, écoutez, je vous le dis là, prenez le temps d'aller dans le Journal de Québec et dans le Journal de Montréal en ligne. Vous allez pouvoir consulter ces dossiers-là si vous ne l'avez pas fait sur l'assimilation des francophones et c'est quoi être un Canadien français dans le reste du Canada. Et on a ce tableau-là qui parle d'une façon absolument manifeste de la situation du français dans le reste du Canada. Alors, c'est les taux d'assimilation actuels en 2023-2024. OK? Alors, regardez là, t'as des provinces, la Colombie-Britannique, 70% de taux d'assimilation, 68. L'Alberta, 63. La Saskatchewan, 74% des francophones qui sont là. À la fin de leur génération, ça parlera plus français. 75% des francophones qui seront là auront disparu. OK? 58% des Manitobains auront disparu. 45% des Ontariens auront disparu. OK? Alors, c'est ça la réalité des francophones. Le Canada est un bain d'acide pour les francophones. On veut la dissolution de la francophonie, la rendre complètement... comment je dirais ça, folklorique. C'est déjà le cas dans le reste du Canada. Mais là, c'est quand c'est rendu que t'as plus de Sikhs qui parlent le Punjabi qu'il y a de francophones, c'est ça, là.
Et ce qui est le pire, c'est que comme à son habitude, Saint-Pierre Plamondon, c'est très calmement qu'il a parlé de ça, sans agressivité.
Absolument.
Il nous fait juste nous présenter ce que c'est. Mais les gens sont pas dupes, hein. Les gens sont pas dupes. Au contraire, parce que.
Mais le simple.
C'est ça, la réalité, c'est pas compliqué, là. Tu peux pas passer à côté.
Le simple fait de nommer les choses, de relater l'histoire, d'expliquer, ils sont tellement habitués d'avoir personne, d'avoir des gens qui sont prostrés devant eux, qui sont roulés en boule dans un coin et qui sont complètement inoffensifs, que le moindrement qu'il y a quelqu'un qui se lève et qui fait seulement que énoncer l'histoire, rapporter les faits, appuyer, hein, c'est facile, on a toutes les preuves de ça, là. Ces lois-là, là, ils ont été votées par des parlements, ils ont été mises en vigueur. Le Ku Klux Klan, là, au Canada, là, c'est une chose réelle, là. Ça a vraiment existé, là. C'est pas juste aux États-Unis avec les Noirs, là. Le Ku Klux Klan a bel et bien existé au Canada et il était très actif pendant environ 20-30 ans. En Saskatchewan, au Manitoba, notamment, où leurs victimes, c'était des Canadiens français parce qu'ils étaient catholiques et qu'il n'était pas WASP, donc White Anglo-Saxon Protestant. Alors, à partir du moment où tu n'étais pas ça, tu étais l'ennemi du Ku Klux Klan. Alors, ils sont venus brûler des maisons, ils sont venus torturer des gens, les battre, parce qu'ils étaient des Canadiens français, qu'ils étaient des catholiques. C'est ça, c'est la réalité des choses. Le mouvement orangiste, écoutez, encore dans les rues de Toronto, je sais que c'est dur à croire, parce que Toronto est tellement multiculturel de nos jours, mais il faut savoir que la loge loyale d'Orange est toujours active au Canada, a des dizaines de milliers de membres partout à travers cette belle fédération canadienne et manifeste à chaque année au centre-ville de Toronto et des différentes grandes villes pour célébrer la victoire des anglo-saxons protestants sur les autres peuples, incluant nous autres. Ils se promènent et c'est un régime, c'est une association raciste et suprémaciste WASP. Et ces gens-là se promènent en toute impunité et tout va bien, Madame la Marquise. Hein, c'est pas pire, ça.
Quand on sait que à partir de la conquête après la dernière bataille, quand les Anglais ont monté toute la vallée du Saint-Laurent, ils brûlaient les fermes, tuaient tout le monde, massacraient. La déportation des Acadiens est une abomination. Non, ça, tu sais, on a oublié ça, on n'en parle pas, c'est pas de bon sens. Là. Il y a quelque chose qui manque au niveau de ben toi, tu es un professeur d'histoire, et quand tu dis que l'histoire s'enseigne pas, l'histoire du Québec s'enseigne pas, l'histoire, ben c'est ça. Ça crée cette espèce d'indifférence des gens parce qu'ils sont pas instruits de la chose.
Ouais, mais les commentateurs politiques sont ignares, ne connaissent pas notre histoire, ne connaissent pas notre culture. C'est fascinant, là. T'écoutes les gens parler, ils connaissent pas l'histoire du Québec, ils connaissent pas l'histoire du Canada, ils connaissent pas l'histoire européenne. Donc, ils ont aucun repère, ils ont des repères extrêmement limités au niveau social, économique, culturel. Et là, tu leur parles de réalité, puis pour eux autres, ça les frappe de plein fouet. C'est violent parce qu'ils sont ignares. Ils sont ignorants. C'est des ignorants.
Édith nous dit justement, c'est le temps des bouffons, Pierre Falardeau, c'est un bon exemple. Écoute, je me souviens quand c'est sorti, c'est le pamphlet le plus incroyable que j'ai jamais entendu.
Mais,
ce sujet-là, c'était absolument incroyable.
Mais c'est d'une violence pour des fédéralistes d'écouter ça, le temps des bouffons. Je sais pas si nos auditeurs, moi je vous le dis, pour des auditeurs, par exemple, européens, qui ne connaissent pas Pierre Falardeau, qui est un grand pamphlétaire québécois qui est décédé il y a quelques années, puis que la plupart des Québécois nationalistes regrettent, prenez le temps, allez voir Le Temps des Bouffons. Donc, sur YouTube, vous pouvez le trouver facilement. Okay? Et je vous le dis, c'est quoi, une dizaine, une quinzaine de minutes, ce co-film documentaire-là. Et donc, c'est à l'hôtel Reine-Élisabeth de Montréal, c'est le Beaver Club, et c'est cette réunion, donc, où les Anglos se gargarisent de leur suprématie canadienne, et où on a les nègres blancs francophones, qui sont les nègres de service, donc de cette intelligentsia canadienne anglo-saxonne. Et écoutez, c'est complètement surréaliste, mais je vous le dis, le commentaire de Pierre Falardeau sur ce documentaire là, et je vous le dis là, c'est ça rentre au poste.
Ça se résumait, tu sais, à la fin surtout, parce que celui qui animait, là, moi, ce qui s'appelle, très connu, là, qui disait, tu sais, « We are magnificent people. »
Ah oui, oui,
you
oui.
Are as we are as magnificent that I think I am. c'était un Québécois.
Mais c'était pas des Marines.
My name is Roger Landry.
Ah, c'est Roger Landry de la presse. C'est Roger Landry de la presse. C'est ça. Parce que
Welcome, ladies and gentlemen. My name is Roger Landry. Écoute, c'est un Québécois francophone. Moi, c'est drôle, mon fils, quand il était en secondaire 1, au Collège Notre-Dame, c'est là que lui, toutes ses décisions au niveau de la politique se sont prises parce qu'il avait vu deux choses. Il avait vu Le Temps des Bouffons de Falardeau, puis il avait vu Apocalypse Nord. Il avait compris comment les Américains sont des infantiles, des scouts, qui s'amusent avec des armes. Les gars sont sur le dos, puis sans zéro. Au Vietnam, c'est une abomination innommable. Puis Le Temps des Bouffons, ça te donne un portrait du fédéral et du provincial tellement dégoûtant. Et il était pas le seul, hein. La plupart des jeunes de sa génération, c'est des gens qui veulent pas aller voter. Moi, je regarde les enfants de France, pareil. Ils n'ont jamais voté parce qu'ils croient pas. Ils ont aucune confiance. Ça sert à rien d'aller voter. Je dis, oui, mais si tu votes pas, ça en fait un de plus qu'ils contestent pas. Ils peuvent pas comprendre ça. Parce qu'ils ont pas, ils ont pas une perspective, ils ont pas un recul par rapport à ça, mais ils ont vu des choses comme celles-là qui les ont tellement dégoûtés que, et je dis, quand t'écoutes Le Temps des Bouffons, si tu as ceux qui s'imaginent que ça va changer, là, détrompez-vous.
Non, tout ce que tu peux faire, en fait, puis c'est en choisir une clique, une nouvelle clique qui va s'enrichir à la place de la clique actuelle, qui aura davantage à cœur l'intérêt de sa population que la clique actuelle. Fait que c'est tout ce que tu peux faire, c'est tout ce que tu pourras pas prendre contrôle d'une société prendre les rênes d'un Québec indépendant sans avoir une clique dirigeante. T'en as besoin. T'as besoin d'une élite. T'as besoin d'une élite qui va s'engraisser sur le dos de la population, mais cette élite-là, au moins qu'elle manifeste de la bienveillance à l'égard de la société qui la nourrit. Alors, parce qu'à l'heure actuelle, le problème avec le Family Compact, c'est que justement, ces gens-là ne sont pas bienveillants à notre égard. Ces gens-là, non seulement s'enrichissent à nos dépens, mais affichent un mépris, mais absolument complet et total à l'égard de notre population. Il est là le vrai problème.
Oui, et d'ailleurs, tu remarqueras que, justement, l'opposition à la réponse de PSPP, ça a été de tenter de le tourner en dérision, de dire qu'il disait n'importe quoi. En fait, ils sont tellement mal pris avec ça parce que ça les cale davantage à chaque fois. Moi, ce que je trouve remarquable, pour une fois, on a un chef de parti du PQ qui fait vraiment de l'éducation de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il fait de la pédagogie de l'indépendance. Et il est très calme, il est très maître de lui. C'est remarquable, c'est vraiment remarquable. Tu sais, au début, on se disait, il y en a qui doutaient, « Oh, il n'y a pas l'envergure. »
Ben, moi le premier. Je l'ai dit à ce micro-ci, je sais pas combien de fois. Que...
Oui, puis moi, je répondais à chaque fois, « Attention, on a eu que ça à date, ça a donné quoi? »
Ouais,
tu sais, quand tu penses que tu as eu des René Lévesque, tu as eu des Parizeau, tu as eu des hommes énormes, des géants dans ce sens-là, là, tu as un gars qui a l'air de rien au départ. Mais ça, c'est la nouvelle génération. Je pense qu'il y a ce côté très, très sympathique. Mais c'est un gars très intelligent. Puis il a une très, très bonne formation en plus. Ouais. Il sait de quoi il parle. Il fait jusqu'à date, en tout cas, c'est un travail merveilleux. C'est encourageant.
Ben moi, je vois toutes les élites fédéralistes et leurs représentants présentement qui vomissent sur Paul Saint-Pierre Plamondon. Fait que moi, il devient de plus en plus sympathique. Plus qu'il l'haïsse, plus je l'aime. Alors, écoutez, il fait je pense qu'il fait un très, très bon travail à date. Puis, écoutez, je tiens à le souligner et ça me fera plaisir de dire mea culpa, Max, mea culpa. Mais on est sur une belle lancée, sur une belle voie. Je suis très curieux de voir, parce que là, il va y avoir des sondages dans les prochains jours, attendez-vous à ça, là, de voir quelles seront les réactions. Les réactions des Québécois par rapport aux intentions de vote, est-ce qu'il y aura donc une dilapidation du capital de sympathie envers le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon suite à ses déclarations qu'il a faites cette semaine et ce que le commentariat politique a cessé de décrier? À suivre, c'est ce que nous saurons dans le courant de la semaine, moi j'en suis pas mal certain.
Voilà. Ouais. Bon, ben, c'est à peu près tout. Ah, je voulais juste rajouter ça pour Jesse. Jesse qui... Non, excuse-moi, Étienne. Étienne, juste pour répondre à ton autre questionnement qui sur notre façon de penser les choses, c'est à cause qu'on mélange pas, on essaie de pas mélanger la religion dans nos réponses. On essaie d'être... Juste penser, réfléchir et laisser les communications ouvertes. Même avec nos ennemis, c'est important des fois. Parce que dans une de ses commentaires, il disait « Oh, je comprends pas que vous êtes pas unanime contre tel ou pour un tel, parce que vous pensez pas que les chrétiens, on se fait tout attaquer. Je préfère ne pas mélanger les religions dans les pensées. » Voilà. T'es chrétien chez vous, dans ta maison. C'est le même que ça marche.
De toute façon, regarde, c'est certain que les religions telles qu'on les a connues, là,
on doit avoir un moral, c'est ça.
Ça disparaît tranquillement parce que ça s'est construit sur. En tout cas, chez les catholiques, on n'a pas à se vanter avec le Vatican, puis avec les. Écoute, c'est effrayant l'histoire de ça, la petite histoire qu'on appelle là, c'est pas brillant du tout. C'est franchement là, on peut pas parler.
C'est ce que ça voulait dire, Étienne. Bouge pas, je vais te chercher ton texte.
Ah, c'est correct, Jean-Marc, on peut commencer à. On est une civilisation judéo-chrétienne, c'est exact. Mais dans l'espace public, on tente de limiter le plus possible l'influence du religieux. Reste que les fondements sur ce qui est bien, ce qui est mal, etc., sont judéo-chrétiens. Je pense qu'en disant ça, on va venir se rejoindre.
Il faut pas oublier que l'ineffable, ça fait partie de notre observation de la nature et des phénomènes, et que l'intelligence artificielle, ça n'a pas grand-chose à voir avec la religion. Puis la religion n'a pas grand-chose à voir avec la vraie, pas nécessairement à voir avec ce qu'on appelle la vraie spiritualité.
Ouais.
Ce sont deux choses, malheureusement. Parce que le garde le Christ, il y en a qui disent, oh, le Christ avait fondé, le Christ a fondé aucune religion. Pas compliqué. Voilà. Ce qu'il avait dit, c'est que ça disparaîtrait. Dans 3 jours, ce temple disparaîtra. Mais ils n'ont pas compris ce que voulait dire 3 jours. C'est 3 cycles. On est dans un cycle, on est dans le dernier cycle où tout ça est devenu complètement.
On est rendu à spin.
T'as le dernier truc que tu veux nous montrer avant que ça aille partir?
Non, ça va aller, au bon? Pire. Oui.
Fait que, on
regarde ça la semaine prochaine. Hein?
On
regarde ça plus tôt.
Au rythme des Sarah joint, non, mais c'est parce que j'ai un de mes amis qui est hospitalisé, donc.
Il est arrivé à l'heure.
Oui, mais ce qui,
c'est ça, il m'a contacté. Il est arrivé avant l'heure prévue, d'ailleurs. T'es encore au lieu d'ennemi.
Ouais. Donc, je vous souhaite, messieurs, une excellente journée, une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous jeudi 20h30. Je serai là cette semaine. Donc, pour ça passe ou ça casse, notre rendez-vous hebdomadaire. Et naturellement, je reviens avec l'équipe dimanche prochain avec un grand plaisir, entouré de Claude et de Jean-Marc, les précieux, nos précieux coéquipiers dans cette équipe du dimanche matin.
Et merci tout le monde d'avoir été là. Puis j'ai dit au début de l'émission que j'étais été faire un tournage. On va faire le montage et présenter ça cette semaine ou la semaine prochaine. Bonne journée à tout le monde et bonne semaine.
Ciao.
À un moment donné, on va le générique de fin pour dire le printemps, là. Mais c'est bon, ça, comme truc. Quittez-vous pas.
Ah ben, il y a comme un message subtil ici.